Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le lundi 1er avril 2016 et nous voilà de nouveau vendredi. Réunis pour l'enregistrement du 23e volet de l'Entrepode. Oui, on est vendredi. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons Christophe, Didouille, Monsieur Lulu, Freddy, Arnaud qui nous accueille chez lui, un invité qui porte un nom de département, Starlet et Nico, c'est à toi. Ah, poisson d'avril! Les cons! Vous avez vraiment cru qu'il y aurait une présentation à deux balles, mais non, aujourd'hui c'est la journée de la farce, bien bourré au fond de la dinde! Alors, ok, j'aurais pu présenter Christophe et lui dire du genre, les cloches sont passées, on dépose un œuf sur sa tête, mais non, c'est son crâne! Ah, le con! Puis j'aurais pu aussi regarder Lulu dans les yeux et lui dire, hey, tu connais l'histoire du con qui dit non? Il aurait dit non, puis moi j'aurais dit, ah, le con! Puis après, j'aurais pu faire le même qu'Odilou, il dit, tu connais l'histoire de Toto dans le cabinet? Alors dis non! Bah moi non plus, j'ai fermé la porte! Ah, le con! Et puis Freddy, le roi de la rigolade du calembour, de la blague carambar, le regarder dans les yeux et dire, ah, le con! Un peu de sérieux. Soyons un poil plus sérieux, poil à gratter, ah le con. L'invité du jour, comme vous pouvez vous en douter, a grandi dans les corons entourés de terribles couleurs noires de charbon. Son amour pour Pierre Bachelet et son titre Les Corons lui ont directement inspiré son nom de scène, Nord.
Tout à fait.
Il est ici pour nous parler de son enfance douloureuse où ses parents lui interdisaient de regarder la petite boîte illuminée où Belzébuth et Satan faisaient pousser les dents des enfants qui la regardaient trop souvent. Comme vous pouvez vous en douter, mes parents ne m'ont jamais privé de télévision. Et donc seul sous la pluie dans le jardin qu'il jouait avec des rats morts et des conserves vides rouillées. Ah ah ah, poisson d'avril. Il est ici pour nous parler de son EP qui sort le 8 avril. Et c'est pas un poisson d'avril. Et puis aujourd'hui, c'est une première. Nous sommes tous conviés dans la maison de notre lilliputien Arnaud, où tout le mobilier est à l'échelle. J'ai voulu aller aux toilettes, je lui ai bouché la baignoire. J'ai une grande admiration pour la niche du chien. Il m'a répondu que c'était le garage à voiture. Par contre, il a une très très grande cave avec plein de bouteilles toutes joyeuses qui attendent d'être débouchées et glissées dans des gorges bien assoiffées. Sacré coquin de Arnaud. D'ailleurs, en parlant de bouteilles, nous devons tous féliciter Starlet. Après une cure de 7 mois coupée du monde, recluse dans un monastère pour alcoolique déprimé qui veut se foutre en l'air, elle a enfin décroché de cette boisson rouge et délicieuse qui rend les gens cons quand ils en consomment de trop. Comme vous pouvez le constater, mes parents ne m'ont jamais privé d'alcool. Poisson d'avril, elle aime toujours la vignasse et c'est un sac à vin. Et enfin, celui qui ne veut ni arrêter ni la bière, ni le pinard, ni cette réunion entrepodesque, je lui redonne la parole. Nous sommes tous avec toi. Courage, ça va aller. Fais-nous rêver, Nico.
Bravo.
Ah oui. C'est de plus en plus difficile d'enchaîner suite à tes intros quand même là.
Oui,
c'est
bah non, il est trop con.
Il parle trop vite, mais
allez,
il y a du débit.
Puis il a son accent aussi un peu.
Il est comédien professionnel.
On comprend bien quand même.
On va vous faire une confession. On avait entendu le générique seulement de Marius hier. On savait pas quel texte allait dessus. Et au moment de la musique un peu tristoune, on pensait que c'était la présentation de Christophe.
Merci, c'est gentil.
Je me suis dit, il va en dire longtemps sur Christophe.
Ouais.
Et
puis
double couche.
Non. Et ben non.
Donc ben nous voilà réunis encore une fois sur
ce lundi.
En ce lundredi 1er avril.
Ouais, lundredi, ouais.
Réunis aujourd'hui chez Arnaud, une première, et nous sommes, bah, vous avez entendu, très nombreux autour de la table. C'est encore une première puisqu'on est neuf aujourd'hui. Toute l'équipe plus Xavier Feugret, alias Nord. On verra un petit peu après dans le détail comment quelles sont les différentes personnalités qui composent ton profil artistique, hein, et personnel.
8.
Peut-être.
8.
Ah bon, bah, ouais.
Okay. C'est comme les chats.
Ok. Ok. Bah, tu nous préciseras, oui, un petit peu le détail tout à l'heure.
J'ai un chat dans ma famille. Enfin.
Son oncle, je crois.
comme nos nouveaux épisodes avec invités, on réduit le nombre de rubriques, donc pour nous concentrer principalement sur la personne qui nous fait l'honneur de venir à notre micro. Donc 3 rubriques aujourd'hui. Une qui sera présentée par Ludo. Une par moi-même. Donc la rubrique la Madeleine de Prout de Ludo.
Oui.
Moi, j'ai une rubrique mes fonds de tiroir. Et puis, je crois que Arnaud va encore céder sa place à JR, qui revient encore une fois. T'es sympa quand même de laisser sa place, parce que c'est quand même pas un bon compagnon, ce garçon. Mais bon, on verra bien ce qu'il aura à nous dire sur notre invité, je présume. Et puis, bon, on va commencer directement dans le vif du sujet avec notre invité. Je crois que là, on va laisser la parole à Freddy. Mais avant, un petit jingle.
Pas de problème. Je
suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
Alors, je voulais la faire façon Marius, mais j'ai peur de vous fatiguer et de me fatiguer moi-même aussi.
Deux à la suite, ça fait beaucoup quand même.
Je vais faire à ma façon, vous voulez pas.
Bah, je peux le faire.
Alors, notre invité ce soir est chanteur, musicien, artiste, chansonnier, guitariste, compositeur, peintre, poète. Surtout, ne rayez pas la mention utile. Notre invité ce soir s'appelle Xavier Feugret, mais c'est son nom de scène qui fait parler de lui depuis quelques mois. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Nord.
Poisson d'avril.
Alors, je précise que si on a l'accent de Rouen rive gauche, on peut dire Nord.
Nord.
Ça marche aussi.
Tu viens du Nord. Ouais,
alors, précisons tout de suite que Nord est un trio, puisque Xavier est accompagné sur scène, mais aussi à la composition certainement, de Thierry Minot et Ludwig Broch, deux musiciens très talentueux qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres formations. On en parlera certainement tout à l'heure.
Un peu.
Alors Nord, ces dernières semaines, c'est quoi? C'est trois clips officiels, un EP sorti, un autre qui sort le 8 avril, Marius nous l'a dit, des concerts en pagaille, une programmation aux Francopholies de La Rochelle, excusez-le peu.
Ah bah dis.
Des chansons en playlist sur France Inter.
Monsieur.
Là.
Des live Monsieur. Sessions, des premières parties pour Bertrand Belin.
On s'échangera nos numéros après.
Cochon.
Faut qu'on parle.
Je suis là, ça va? ça va, c'est bon.
Alors
si
Xavier...
on prend le groupe, je peux donner une personne.
Artiste, c'est bon.
C'est pas de la prostitution, c'est.
Encore un tatou, si tu veux.
Tam tam.
Alors, sachez que Xavier s'exporte aussi à l'international. Il joue au Québec. Il a joué au Québec. Il y retourne cette année au mois d'août pour un festival, je crois. Alors, surtout, Xavier chante des belles chansons en français, sauf quand il est bourré. N'est-ce pas?
Comme nous, en fait.
Nous, quand on n'est pas bourré,
je crois qu'on va bien s'entendre. Alors, tu verras, Xavier, autour de cette table, des chroniqueurs aux goûts musicaux variés. Certains adorent ta musique, d'autres moins. Alors, pas besoin d'être fort au jeu du qui est-ce pour deviner dans quel camp situent les uns et les autres, tu verras. Nous tous, en tout cas, sommes ravis de t'avoir à notre table et à notre micro ce soir.
Je suis ravi également.
Alors, Arnaud et moi-même avons poussé le professionnalisme à venir te voir la veille de l'enregistrement de l'émission. Hier, vendredi 31 mars, c'était au Tetris, c'était au Havre, c'était juste avant Bertrand Belin, c'était vraiment très bien.
Oh, mais c'est gentil.
Ouais, Monsieur Nord est un seigneur. Je prends l'accent rive gauche, c'est terrible.
Il a l'air sans avoir l'air.
je suis sûr que j'ai pensé à ça en lui.
Les références.
Monsieur Nord est un seigneur. Il nous avait proposé une invitation à Arnaud et moi-même. Un all access avec prostituées dans les loges et plateau de coke en libre service.
Oh yeah, wow. Concert retraiteur, Arnaud, tu nous as dit que c'était le concert
incorruptible.
J'étais bourré dans une lituanienne.
Vous connaissez toute ma vie.
Incorruptible, Arnaud et moi-même avons refusé, par éthique, par principe, ou tout simplement parce que Xavier nous a prévenu qu'il nous invitait à 19h15, le jour du concert, et que forcément à cette date-là, à cette heure-là, il savait déjà que nous avions déjà nos billets de concert en poche. Allez, sans rancune, on te souhaite la bienvenue, et on te donne l'accès à notre vin rouge, à notre plateau de fromage. On va voir qui accueille le mieux.
Joli, très bien en tout cas, très bonne, très bonne entrée en matière.
Il est mieux que moi.
Merci beaucoup pour cette mise en bouche.
Peut-être pas mieux, un peu différent.
Attends, tu connais pas les copines encore.
Oh, ça va. Plus de temps 20 minutes. C'est vendredi soir, c'est le week-end.
Bah donc, on pourrait peut-être commencer.
C'est bien les loges, sinon.
Voilà, c'est
la première question.
C'est parce que tu veux d'ailleurs, mais justement, c'était de revenir sur ce qui est chronologiquement le plus récent. Donc votre concert hier, votre appréciation de la soirée d'hier, avant peut-être de rentrer dans le détail.
Pour ma part, si on se recentre sur Nord, j'ai vraiment trouvé que c'était un très beau concert et je t'avais vu au Badaboum dans la même configuration. Et pour ma part, j'ai trouvé que ça avait pris de l'ampleur en fait depuis le concert du Badaboum. Et voilà, il y avait quelque chose qui était encore plus prenant sur scène. Après, de toute façon, je suis pas forcément très objectif puisque ta musique me j'ai l'occasion d'en parler avec certains, me parle.
Mm-hmm. Voilà. C'est dans lui. Le camp de ceux qui t'aiment bien.
Mais ça a vraiment je trouve qu'il y a eu me semble-t-il une vraie progression. Et puis, justement, enfin, je sais qu'entre-temps, il y a eu des ateliers, des choses comme ça.
Tu l'as peut-être dit, mais le Badaboum, justement, c'était quand?
De mémoire, c'était en
septembre
l'an dernier.
Le Badaboum, c'est quoi?
C'est une salle à Paris.
C'est l'ancienne scène Bastille.
C'est un club
parisien. D'accord, je pensais que c'était une boîte à partout.
Hey, Badaboum.
Le Badaboum.
Mais tu sais, tu peux louer le Badaboum et faire ce que tu veux dedans.
Note Marius. Moi, avant de revenir sur les concerts à l'actualité, j'aimerais bien revenir un peu sur ce qui fait que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours assez intéressant et passionnant de voir l'évolution d'un artiste et de se dire qu'aujourd'hui, on parle des francopholies, on parle de différentes scènes, d'une signature aussi, enfin ce genre de choses-là sur des labels. Et j'aimerais bien un petit peu que tu, peut-être un peu convenu, mais que tu nous racontes un petit peu les origines, quoi, tu vois.
Oui, parce qu'en plus, t'es pas quelqu'un d'âgé.
Voilà, savoir comme ça. Comment tout ça a commencé, tout simplement.
Comment ça a commencé? Ça a commencé il y a plusieurs années. En fait, j'avais un groupe qui s'appelait Dame Fortune. On faisait de la chanson rock. D'accord. Chanson rock, déjà, c'est moyen, déjà, comme terme. Non, en fait, c'était vraiment influencé rock français entre Noir Désir ou Mano, la Mano. Et puis, voilà, on était sus sur scène. Et puis, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai appris la musique, en fait.
T'étais déjà guitariste-chanteur à l'époque?
J'essayais. En fait, j'ai vraiment appris la musique en groupe et j'ai pas fait d'école, j'ai rien fait du tout de tout ça. Et c'est comme ça que j'ai appris la musique. J'ai appris le mi mineur et le sol. Ça m'a ouvert des voies.
Ça permet de faire un tas de chansons.
Ouais, complètement. Et puis, du coup, voilà, j'ai appris la scène, j'ai appris à faire des compos comme ça, et puis au bout d'un moment, forcément, les groupes split, le groupe a splitté en 2009, un truc comme ça, et puis moi j'ai commencé à faire des concerts en solo, d'ailleurs avec Europenko, Freddy pourrait le témoigner.
Ça fait quelques années qu'on se connaît.
Bah oui, complètement. Ouais,
un développement de ton répertoire, le tien à toi, quelque chose
et puis en fait, c'était à la fois des chansons, il y avait des chansons de Dame Fortune, et il y avait vraiment des chansons que j'assumais pas vraiment dans Dame Fortune, où c'était des trucs que je faisais chez moi tout seul avec mon ordi. Et voilà, j'ai eu l'occasion de les jouer un petit peu plus, les jouer parce que je les avais jamais joués avant. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait.
Et ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était 2009-2010.
D'accord. Pour essayer de situer un peu le moment
où
ça.
Ouais, et c'était pas encore Nord, du coup, c'était mon nom, quoi. C'était Xavier Feugret.
C'était à cette époque où tu t'appelais Xav Feugret?
Ouais, voilà. D'accord. En gros,
tout attaché.
Tout attaché, Xav Feugret. Et du coup, c'était un peu dur à retenir et les gens m'appelait Xav Fourniret, donc c'était un petit peu délicat puisque j'ai jamais eu de serial killer dans ma famille.
Voilà, et t'as qu'un chat, tu nous l'as dit.
Ouais, c'était un peu compliqué, du coup j'ai décidé, voilà, il y a deux ans, de changer un peu tout ça. Et puis en fait, j'ai retrouvé un pote du lycée avec qui on avait fait de la musique et puis on s'entendait plutôt bien. Et lui, il est devenu ingé son. En fait, il avait travaillé dans un gros studio à plus 30 à Paris, qui est en fait un des plus gros studios de Paris. Et puis là, on allait enregistrer à l'époque de Dame Fortune et puis d'autres groupes aussi que j'avais. Et on a décidé de faire un premier EP ensemble il y a deux ans, quoi.
Et sous le nom de Nord à ce moment-là?
Non, en fait, on savait pas trop. En fait, c'était vraiment, on partait sur des morceaux que j'avais, sur les maquettes que j'avais faites chez moi, tout seul, avec mon ordi. D'ailleurs, il y a un beau CD, mais en fait, à la radio, ça se voit pas qu'il y a un CD dans la main.
Tu le montres, Freddy?
Et du coup, voilà, on est parti là-dessus, sur les premières chansons, sélectionner les chansons qui étaient les mieux pour nous deux, et puis on a travaillé l'atmosphère, les textures, les synthés, les boîtes à rythme, tout ce que j'utilisais, on a repris un petit peu tout, en fait. Et savoir ce qu'on allait faire avec tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il y a ce truc de Nord qui est arrivé avec mes...
Pourquoi Nord, alors?
En fait, du coup, c'était en studio. À la base, moi, j'arrivais avec mes petites boîtes à rythme un peu froides, ces trucs joués sur l'ordinateur, en fait, finalement. Et puis, mes guitares, mes chants. Et puis, finalement, il y avait un côté froid dans tout ça. À chaque fois, mon pote, là, Sylvain, me disait, c'est assez glacial et tout. Et puis, même dans les thèmes abordés, à chaque fois, je ramenais tout le temps un peu les mêmes chansons. Je fais toujours la même chanson depuis 18 ans, quoi. Et puis, comme du marchand. Et du coup, voilà, il me disait, bon, et puis du coup, finalement, on s'est dit, tiens, on va faire de la Cold Wave. Ouais, c'est Nord, moi, ça me convenait. Et puis finalement, ça arrivait au bout d'un moment où je me suis dit, bon, Xav Fourniret, c'est fini.
C'est dommage.
Passons à autre chose.
Je vais passer dans le côté obscur du Nord, où on peut aussi trouver d'autres serial killers. Et du coup, voilà, Nord s'est imposé à ce moment-là et on a commencé à travailler le répertoire et puis à faire aussi d'autres chansons avec lui. Puis dans la boucle est arrivé mon futur éditeur qui est maintenant aussi producteur du disque. Voilà, lui, il a trouvé ça super direct. Il a dit, bon, écoutez les gars, maintenant il faut se mettre au boulot, puis on va aller rencontrer des gens, des labels, on va rencontrer des tourneurs, je vais vous présenter tout le monde. Enfin, moi, je connaissais personne.
D'accord.
Enfin, je venais de ma campagne, quoi. Ouais. Voilà.
T'as fait la bonne rencontre au bon moment, en fait.
Bah oui, en fait, finalement, ouais, à la suite de ça, tout s'est un peu enchaîné en 2 ans, quoi. Enfin, vraiment un an et demi quand je l'ai rencontré. Il a décidé directement d'aller voir Universal. Il faut pas de problème, allez, ah oui. on va aller voir.
Pas de problème. Okay. Va.
Ils vont même venir au studio parce que du coup j'ai enregistré chez lui parce que mon pote en fait louait la cabine d'enregistrement et du coup il me dit t'inquiète pas, ils vont venir au studio. On va leur servir un coup à boire, ils vont écouter tes chansons, ça va être super, ça va être comme à la maison.
À l'ancienne, un peu.
À l'ancienne, hein. Bah oui, du coup, les voilà.
T'as vu Eddie Barclay, t'as vu.
Ouais.
Ils ont sorti le.
Super marrant.
À la Wayne Storm, en fait.
Qu'est-ce qu'il raconte? Sharp Records.
Il raconte tout le temps des blagues de cul. Et du coup, voilà, j'ai rencontré Sony, enfin, d'autres gens, et puis voilà, et puis. Il y a eu un intérêt de maison de disques, de labels, d'éditeurs. Et puis, on a commencé à retravailler vraiment tous les titres, mais aussi l'image et les clips.
Le concept, en fait, même.
Voilà,
global,
voilà en fait, c'est même passé par l'image, puisque moi, j'avais jamais fait de clip, finalement. C'est et puis, j'étais complètement...
Ah, alors, ouais. Je peux en parler maintenant
ouais, mais c'est ça que je voulais revenir, justement.
En fait, moi, j'étais... Ouais, j'avais rien. Je débarquais de... En fait, j'avais juste mes chansons, finalement. Et puis, il fallait construire tout. Voilà, on a fait tout ça en un an et demi, avec l'aide aussi d'éditeurs, avec du futur éditeur, producteur, si je reviens un petit peu en arrière dans la chronologie.
Juste, puisque justement, on parle chronologie... je vais apporter ma petite expérience puisqu'on se connaît depuis quelques années, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. La première fois qu'on t'a vu avec Thierry Jourdain d'Europe & Co, qu'on t'a vu jouer solo, on s'est dit mais c'est évident, il faut qu'il joue, faut qu'il développe son répertoire perso, il faut qu'il aille dans cette voie-là, quoi. Pour nous c'était une évidence. Et puis on t'a toujours poussé, on t'a toujours à notre humble niveau, hein, évidemment.
Comment tu te la racontes ?
Non.
De toute façon, c'est grâce à nous si t'en es là aujourd'hui.
Dit-elle avec la bouteille de fina.
Riez !
Ah, c'est ce que je te dis depuis des années !
Tout ça pour dire que le potentiel, il a toujours été là, que ces chansons, elles ont toujours été là, et j'en ai la preuve dans les mains. Ce CD démo que tu m'avais donné en 2009, il y a 7 ans, et qu'est-ce que je lis dessus ? Je lis Drunk in Lithuania, je lis L'amour s'en va, je lis Celui qu'on croit, enfin toutes les chansons que tu joues actuellement sur scène et qu'on peut retrouver sur l'EP, celui qui va sortir. Enfin, c'est incroyable quand même de se dire qu'il y a 7 ans.
De recycler des trucs comme déjà ça, t'as pas honte.
On sait même pas si c'est toi qui les.
En plus.
D'ailleurs, par rapport à la maquette, il y a eu un gros travail de réarrangement.
Même pas. Rien du tout.
Freddy me l'a fait écouter hier, justement, en allant à ton concert.
Tu répondras pas. Tu as 5 questions, tu répondras jamais.
C'est vrai que c'est intéressant, c'est effectivement de voir qu'il y a les choses sont là déjà très posées, très voilà, très en germe. Mais effectivement, on sent que derrière, il y a eu un travail de prod.
Production, ouais, derrière.
Bah justement, c'est ça. Quand je suis arrivé en studio, moi, j'avais juste ces maquettes là avec les intentions de mix. Enfin, en gros, les batteries étaient là ou les synthés ou les guitares voix. Et puis, en gros, il fallait vraiment travailler en détail ou en profondeur de ce truc que moi, personnellement, en fait, c'était comme des notes en fait que je prenais. Et puis, j'avais pas la prétention de dire, bah, voilà, c'est fini. Et puis, moi, je prenais plutôt ça comme des démos que je faisais vraiment, vraiment à la maison tout seul. Avec un son, des fois, un peu pourrave quand même. Il faut l'avouer.
En fait, ce qui est incroyable, c'est de dire que tes chansons qui passent sur France Inter aujourd'hui, qui plaisent aux gens. Tu les avais déjà il y a 7 ans, tu les jouais déjà pour certaines sur scène, quoi.
Bah oui, enfin à part Drunk où je l'avais mise au placard parce qu'en fait c'était une chanson qui j'arrivais pas à jouer, j'arrivais pas à faire un truc avec et du coup je l'avais mis dans un placard et puis Sylvain est arrivé en me disant oh, mais non cette chanson là il faut en faire un truc, on va bosser dessus une semaine là, ça va être bien et puis finalement on a trouvé plein de trucs. Même il y avait les gens du 106 avant qui m'avaient dit que c'était bien, il y avait Laurent du 106 qui est ingé son en fait au 106. Et lui il m'avait dit bah, vas-y on bosse ça, tu vois, ça va être bien. Et puis j'avais refait une deuxième démo de ce truc là et puis après je l'avais encore laissé tomber et il y a une troisième vie en fait. Et là il y a une quatrième vie à cette chanson.
Ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est de se dire que finalement il y a la vue de l'artiste ou qui crée quelque chose et puis finalement le morceau final dépend aussi de ce que les gens vers quoi ils t'orientent, parce que toi-même tu l'avais mis de côté mais c'est d'autres gens qui t'ont forcé à le reprendre d'une autre façon, oui. De le revoir, etc. Et peut-être que toi, il serait encore dans une, tout seul, il serait dans un placard, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, lui, il me disait, finalement, c'est un morceau fort dans la construction et puis dans le choix des textures, de l'instru, en fait, de l'instrumental. Et il me dit, vas-y, il faut vraiment que tu ailles dans ce truc-là parce que c'est plus, enfin, c'est mieux que les guitares chants ou les trucs que je lui faisais aussi. Il dit, vas-y, à fond là-dedans. Et pas peur, quoi. En fait, en gros, c'était ça. C'est et pas peur, fais-le.
D'accord. Donc, ouais, il faut.
Et pour L'amour s'en va, par exemple, elle est déjà là, la chanson. Enfin,
Il y a quasiment tout. En fait, on a même recoupé dedans parce que c'était trop long. Et en fait, au bout d'un moment, justement, c'est ça, on l'écoutait, puis on se disait, ouais, c'est pas mal, mais au bout d'un moment, tu te fais un peu chier. Ouais, tu te fais chier. Moi aussi, tu me fais chier. c'était comme ça, en fait, que c'est venu. Du coup, on a fait, bon, alors, bah, c'est pas grave. Elle fait 4 minutes 50, elle va en faire 4 minutes 28. Et voilà, et du coup, on a recoupé dedans, et puis on se disait, bon, bah, on va juste remettre. Refaire un couplet, tu vas retravailler un peu les paroles et on va retravailler les paroles comme ça au fur et à mesure, mais finalement tout était quasiment là, en fait les bases étaient là.
Oui, Didouille.
Ouais, mais je sais plus du coup si la question elle, non je voulais dire au travail quand au travail au départ.
C'était pas ça du travail.
Oui, j'imagine que ton morceau, quand tu l'as composé, tu voulais créer une ambiance, une atmosphère, tu avais une idée du morceau. Mais une fois qu'on rentre dans des gros labels comme ça, avec de la prod assez conséquente, est-ce qu'il n'y a pas aussi la crainte quelque part que le travail initial soit dénaturé par rapport à tes envies au départ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont imposées par ces labels forcément, ou toi tu as ton droit de comment dirais-je,
de regard,
de regard, ou en tout cas de
une voyelle, fais quelque chose.
Est-ce que t'as un droit de deux ou pas?
Non, mais deux. En fait, ton droit de deux, c'est quoi alors du coup?
En gros, est-ce que t'as dit? Bon, en gros, est-ce que t'as compris ma question, Xavier?
La bonnette est de travers. Est-ce que je peux répondre par oui? Pardon.
Ah oui, d'accord.
Non, ouais. En fait, j'ai connu ça justement quand j'ai signé en édition chez Universal.
Qu'est-ce que tu appelles signer en édition?
Alors, en éditeur musical, en fait, historiquement, c'est celui qui va faire les partitions pour. À l'époque où il n'y avait pas encore de support, quoi. Ça servait à ça, en fait, de faire des partitions pour que les autres gens les jouent. Et puis, c'était comme rétribué. Comme ça, en fait. Et après, bon, bah, après, il y a eu le 10, il y a toute cette industrie musicale qui s'est fixée. Mais voilà, du coup, l'éditeur, en gros, il est toujours là pour que tes chansons vivent. Par exemple, si tu signes avec un éditeur, lui, il va prendre une part. Parce qu'en fait, en gros, il y a je ne sais pas si tout le monde connaît la SACEM, forcément, oui. Et du coup, en gros, la SACEM, quand tu es auteur-compositeur, tu touches 100% des droits. Et quand tu signes en édition, c'est 50-50. Tu coupes la part en deux. Et puis lui, en fait, son intérêt, c'est que de vivre avec aussi avec ces chansons-là, et puis que toi aussi. Donc en gros, l'idée, en fait, quand j'ai signé avec Universal, c'est que voilà, que le projet puisse être toucher le maximum de personnes. Voilà. Bon, en gros, c'est ça l'idée. Bon, pour l'instant, je suis encore loin, mais
c'est pas frustrant
de céder ses droits ou...
Non, de devoir transformer en quelque chose que t'as...
Ben, en fait, non, mais en fait, c'est... au départ, moi, j'avais peur de ça, forcément. Je pense que c'est la crainte de l'artiste qui dit, non, touche pas mon
bébé.
Ben, bah, oui. Et au départ, j'étais vraiment réticent, et puis on a eu même des prises de bec avec... même avec le réalisateur du disque, parce que lui, il avait aussi son mot à dire par rapport à la production. Et lui, il me disait, bon, ben voilà, c'est... ok, c'est comme ça, c'est... cet univers un peu froid, cold, chanson française, mais moi j'ai une idée là-dedans, et puis on était tout le temps en train de se friter, on se disait, mais moi je veux telle guitare à ce moment-là, il me dit, non, les guitares, tu les oublies. Du coup, j'étais en train de faire des compromis, en fait.
C'est ça, en fait, la question, c'est est-ce que ça reste, tant que ça reste cohérent avec ta vision artistique, tant que tu assumes le truc, ça va, mais à partir du moment où quand même il y a des choix qui deviennent extérieurs à ce que tu as produit au départ, c'est là que, effectivement, je...
Mais après, tout a été fait... en fait, à chaque fois, j'ai retenu en disant, mais non, là, c'est bon, ce couplet-là, je le garde comme ça, quoi. Et puis, non, mais en fait, il faut que tu bosses. En fait, finalement, c'était vraiment rentrer dans le travail. Ouais. Ça m'a permis de bosser plus, parce que finalement, j'étais un branleur, peut-être.
On arrive au fait. C'est un peu
libre. J'avais pas spécialement envie de retoucher à la démo en me disant, mais non, c'est bien comme ça. Et en fait, les éditeurs, enfin, mon éditeur, il en a vu passer des gars, et en fait, il en a signé pas mal.
Donc, ça s'est avéré judicieux à chaque fois.
Moi, j'ai trouvé ça judicieux. En fait, jusqu'à
avec
présent,
le recul, oui.
Jusqu'à présent, moi, je me suis jamais dit, oh, putain, j'ai fait un compromis à la con. Hein, et
d'accord.
Puis en fait, je me suis.
T'as pas regretté, en fait.
Ouais, non.
Le sentiment que ça tirait le tu tirais vers le haut,
ouais,
en fait.
Ouais, parce qu'en fait, par exemple, pour L'amour s'en va, ça a été efficace parce que lui, il a dit, bah non, mais. Justement, ce truc, la chanson, elle est un peu chiante au bout d'un moment. Ou qu'est-ce que t'en penses si on met on change le pied, le kick du truc. Moi, j'avais fait un truc un peu mollasson, un peu cool, voilà, un petit peu fleur bleue. Il me dit non, en fait, il faut que la chanson, elle te rentre un peu dans la tronche. Et du coup, voilà, rien que d'expliquer, enfin, de parler de tout ça, ouais. Finalement, ça m'a fait du bien et ça m'a fait avancer aussi, même dans la couleur du son et dans ce que je voulais dire aussi.
Ça, t'as renoncé à rien, en fait, ça t'a,
non,
t'a progressé.
Ouais, ça m'a fait une progression, en fait, et puis je crois que je suis encore en train de réfléchir aussi là-dessus, et puis on est tout le temps en train d'en discuter avec l'éditeur.
C'est l'intérêt aussi de l'œil d'un tiers aussi sur
bien.
Son produit.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Mmh. C'est que, ah ouais, c'est ça. C'est que t'as vraiment quelqu'un avec qui tu travailles et puis confiance relative, on va dire.
En tout cas, avec Arnaud, on a noté hier soir que on t'a senti super à l'aise avec tes morceaux sur scène et c'était un vrai plaisir de te voir.
Ouais. Bah, ça, c'est de plus en plus parce que du coup, j'ai fait un truc là, le chantier des Franco. En fait, j'ai été pris juste après le Badaboum, je crois. Il y a eu
une résidence, c'était là.
Ouais, en fait. J'étais repéré là-bas au Badaboum, il y avait quelqu'un du chantier des Franco et tout de suite après, je crois que c'était en octobre, j'ai fait la première session et en fait c'est vraiment une résidence d'une semaine où tu bosses partie par partie, par exemple la scène, tu bosses 2h30 avec un coach.
T'as fait ça avec Prohomme, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Alors, il faut que je raconte, je peux la raconter l'année de... je parlais
c'est
avec les...
C'est parti, Doane, mon autorisé, donc...
Demande à son mari,
non,
c'est
tu peux t'arrêter là.
Donc, on parlait avec les garçons de tes titres, et j'ai dit... C'est vrai, ils sont témoins. Et j'ai dit, moi, ça me fait penser à Prohomme. Je ne savais pas que tu avais fait... Je trouve que tu as une tessiture, et des fois, la façon dont tu rythmes les mots... J'avais l'impression, parce que j'adore Prohomme, j'avais vraiment l'impression que c'était dans la mouvance, si tu veux. Donc j'ai dit spontanément, garçon, moi ça me fait penser à Prohomme.
D'accord, mais en fait, lui il connaissait pas du tout en fait, quand on est arrivé au chantier. Donc voilà, on a dit, bon bah voilà, tu vas bosser avec un chauve.
Ah, vous en avez un aussi?
Nous, on s'y fait. À force, on s'y fait.
C'est le côté.
Il faut savoir que c'est les meilleurs. Hein.
Bah, voilà. Et du coup, il s'avérait que.
Et il est bien barbu maintenant.
Il est...
non
ouais, mais ce type-là, il est, il est assez fantastique.
Il
parce
est
que,
doué.
Du coup,
hein.
Il a, il a vu le truc, il a fait, oh, bon, ok, d'accord, très bien. Moi, bon, ça me parle. Ok, on y va. Et du coup, on a bossé titre par titre. Il me dit, bon, l'amour s'en va. Tu parles à qui là? Vas-y, mais t'as bien quelqu'un, tu connais bien quelqu'un, elle s'appelle comment? Et du coup, par exemple, il a pris un pied de micro, il est allé, il y avait un top modèle ou un truc comme ça, il est allé imprimer une photo de top modèle, il l'a accroché sur le pied de micro. Bon, maintenant, tu vas parler à Micheline. Ok? c'est génial. Tu la regardes droit dans les yeux. Et puis tu me fais ta chanson L'amour s'en va en lui disant, voilà, écoute, l'amour s'en va. Et Micheline, c'est pour toi. Du coup, on a refait la chanson et on l'a refait toute la journée comme ça. Ouais. Ok, c'est bien. Du coup, maintenant, tu me l'as fait avec l'accent du Sud. Ok. Tu t'appelles le Nord, mais tu fais avec l'accent du Sud. Allez, et puis, en fait, c'était à la fois du travail...
Théâtral, presque.
Du coup, voilà, on est arrivé un petit peu dans le théâtre.
Pour libérer le...
Puis, investir la...
En fait, se sentir à l'aise.
Voilà, investir la scène, et puis...
C'est vraiment... Enfin, j'imagine que c'est à travers de ça et d'autres choses, mais c'est vraiment la différence marquante avec le Badaboum. C'est ce côté aisance sur scène. On sent que tu es plus à l'aise, y compris entre les titres.
Ah oui.
Bah, pour ma part, en tout cas,
c'est toujours la difficulté
c'est
d'ailleurs. Ça.
Film, bah oui, c'est bien. En fait, moi, c'est ma hantise.
Les transitions. Ouais.
Et en fait,
j'ai quelqu'un à ma droite qui a le même problème.
On a fait la deuxième. En fait, on a fait une deuxième session là il y a deux semaines au chantier des Franco. En fait, tu le fais en deux fois. Le chantier des Franco, tu fais une première résidence où vraiment tu apprends un petit peu tout. Tu débarques aussi parce que moi, j'avais vraiment jamais fait de coaching comme ça personnalisé même. Et même il y a des cours de chant aussi. Là, j'avais jamais pris de cours de chant. J'étais ouais. carrément à la rue. Et du coup, la deuxième fois, bah, tu travailles vraiment en profondeur. C'est pareil. Et du coup, j'ai travaillé avec un autre gars qui s'appelle Christophe Gendreau. Et lui, c'est un ex-membre des Regals.
Regals.
J'ai du mal à le dire. Ouais. Et du coup, lui, c'est pareil. En fait, il a vu le truc, il connaissait pas. Et de la même manière que Prom, il a dit bon bah, ok. Ben, bah, qu'est-ce que t'as à dire? Fais-le. Dis-moi. À qui tu t'adresses, on reprend les un peu de la même manière, et en fait, lui, il avait aussi d'autres idées par rapport à la scène, par rapport à comment j'étais sur scène, où il fallait que j'envoie et où il fallait que je garde, et tout ça, on l'a bossé petit à petit pendant la semaine avec Christophe, et en fait, ça m'a fait un bien fou parce que c'était comme une piqûre de rappel avec le programme, quoi. Ouais. Et puis, mais vraiment, je crois que j'ai fait un bond en une semaine.
Et donc, une troisième session, et tu penseras à parler de la sortie de ton album à la fin du concert, c'est ça?
C'est ça.
Là, ouais. Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il a oublié.
j'ai même oublié que je m'appelais Nord.
Ah ouais, quand même. C'est beau, ça.
Ouais. Et d'ailleurs, je crois que tu n'as pas présenté tes acolytes.
Non.
Mais c'est peut-être une occasion de te rattraper. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Ludwig et Thierry? Ouais.
En fait, on a commencé à bosser ensemble en mai dernier. J'ai commencé Nord tout seul. Nord version scène, en solo, donc avec mon ordi et tout. Et c'était hyper galère pour moi parce que je suis quelqu'un de pas très discipliné. Des fois, j'ai du mal, je m'en vais. Je suis plus là.
Ah ouais.
Et puis ouais,
c'est embêtant. T'as quand
des absences, c'est ça, ouais.
C'est... Ouais, je suis.
Tu rentres dans ton monde et puis dans ta bulle.
Étourdi, ouais. Et du coup, des fois, il faut être très focus. Et puis moi, je suis pas. Et j'avais vraiment envie.
Tu te rappelles où t'es ce soir ou pas?
Grand Quevilly, non?
Grand Quevillon.
Ah bah oui. Et du coup, j'avais rencontré un peu les gars avant. Enfin, plusieurs groupes. Il y a eu Radio Sofa pour Ludwig et. Je les avais rencontrés un peu avant aussi. J'avais rencontré Ludwig et à chaque fois que je voyais Ludwig sur scène, moi, c'est quelqu'un qui m'accrochait en fait dans.
Qui t'inspirait non,
ouais, dans la manière dont il jouait. Et puis en fait, il joue plusieurs instruments. Il est capable de faire du piano, de la guitare, de la basse. Et puis toujours avec une aisance et une élégance qui me plaisait. En fait, sur scène, moi, je suivais en fait.
En plus, il est très sympa, ce qui ne cache rien.
Bah oui, en fait, il me fait beaucoup rire. Et du coup, j'étais allé le voir en décembre, et puis voilà, je lui avais dit, bon, je cherche des gens pour m'accompagner sur scène, je voudrais bien faire un trio, et comme en fait, lui, il avait vraiment ce profil de multi-instrumentiste, finalement, et puis, qui avait joué aussi avec Claire de... Claire de Namur.
Ah, l'autre. C'était l'autre. Ouais. Ouais.
Et du coup, en fait, voilà, il vient du rock, il a fait de la chanson, et puis il connaissait un peu tout ça. Et en plus, je lui avais fait écouter les chansons, il aimait bien. Il me dit, bon, c'est chaud, j'ai pas trop de temps, mais dans 6 mois, ok, pas de problème. Et pareil, moi, je connaissais, en fait, j'ai un logiciel qui s'appelle Ableton Live, Ableton Live. Et du coup, moi, je suis un peu néophyte aussi dans ce truc-là. En fait, j'apprends tout seul, mais j'utilise le logiciel à 10% des capacités.
Comme nous, hein.
Comme tous.
Ouais, et ce qui fait que je progressais pas super bien, et surtout pour la scène tout seul. Et là, je suis allé voir Thierry Minot, et lui, en fait, il vient pareil du rock, mais aussi il a fait beaucoup d'électro, et maintenant, il a un groupe d'électro pur, enfin, ça s'appelle Dim Sum.
C'est Thierry de ex Dead Rock Machine.
Voilà, il a fait Dead Rock Machine et lui, il est en fait, c'est à la fois un super musicien et un geek. Enfin, il connaît tout. Enfin, moi, il m'épate. En fait, il est capable de faire ses propres instruments pour jouer avec. Enfin, en midi,
ah ouais.
Il est hyper balèze. Enfin, tu vois, il trouve des solutions un petit peu à tout quand t'as des problèmes. Moi, j'aime bien ce genre de.
C'est confortable. Oui.
Et voilà, pareil, je l'ai vu et puis il m'a expliqué des trucs sur live. On a discuté pas mal et je lui ai demandé, je fais. Ouais, pas jouer dans mon groupe.
Tu m'as dit, monsieur.
Et du coup, il me fait pareil. Il me fait, ouais, c'est pareil, j'ai pas trop de temps, mais bon, On verra.
Tu m'emmerdes, tout ça, ouais, c'est ouais.
Bon, t'es gentil, mais moi, j'ai un vrai boulot, moi.
Attends, attends, ça va, c'est
tout
bon.
Tout ce qui est sale, t'as un banquier manouche.
Attends, si je me tapais tous les relous, là. De...
je vais faire des swing manouches. Et du coup, il me dit, bon, bah, dans 6 mois, du coup, le rendez-vous en mai, en fait, j'ai un concert au 3 Baudets à Paris, je crois que c'était en fin mai. Et là, justement, le futur éditeur, il me dit « Ah bon, bah, t'as déjà passé aux trois Baudets en solo, il faudrait que tu me présentes une formule avec d'autres musiciens. »
Il faudrait que tu trouves deux autres Baudets.
Il fallait la caser, c'était maintenant ou jamais.
Franchement, chapeau, timing. Et puis du coup, voilà, du coup, j'ai fait « Bon, bah, j'ai rappelé les gars, et puis ils étaient partants tous les deux, et voilà, on a fait une semaine de répète, enfin, on a fait une répète, et puis...
Elle a duré longtemps.
C'est vraiment un branleur. Hein.
Non, mais c'est eux qui sont hyper forts. Donc, ouais. Pas de problème. Et voilà, et du coup, c'est parti de là. Et après, on a enchaîné les concerts après avec eux.
Malgré les agendas, enfin, vous avez pu trouver les agendas. Et ouais, collé, en fait. Où tu alternes entre formule solo, formule trio.
Ouais, il y a eu ça au début. D'accord. Et là, c'est de plus en plus à 3.
D'accord.
Ouais, depuis les chantiers des Franco, la première session là où je faisais quand même des concerts tout seul, j'ai aussi continué après. Mais là, ouais, c'est vraiment, j'aimerais bien faire que à 3.
Au chantier, sur les chantiers des Franco, justement, pour le coup, t'étais tout seul.
Non.
Ils étaient là avec toi.
En fait, ils sont venus.
Ah, c'est chouette.
Fait,
voilà, super.
Et moi, je pensais au départ que le chantier des Franco, quand ils m'ont appelé, je pensais que c'était la version solo. Et en fait, ils m'ont rappelé en me disant « Mais non, t'as rien compris, en fait, on voulait...
» T'es vraiment qu'un con.
T'es vraiment un bonnet.
En fait, t'écoutes rien. On veut la formule à 3. Et puis, en fait, c'était hyper bénéfique parce que... je veux pas vous en parler en détail, mais là-bas, donc il y a le coaching scénique, coaching vocal, donc tu chantes pendant 2h30 aussi, pareil. Et puis t'as un truc, c'est le coaching personnalisé. En fait, c'est un peu du coaching d'entreprise, tu vois.
D'accord.
Comment tu te sens dans ton entreprise.
T'es un winner.
Voilà, par exemple.
À la Cogip, comment ça va la Cogip?
Où t'en es avec, avec
un killer Berthier. Sosie
de Francis Cabrel. Ce soir, je vais aller chanter au 3 Baudets et je peux vous dire que j'ai la pêche.
T'es un killer, Faudrey.
Pardon, vas-y, excuse-nous, vas-y. Et donc, coaching personnalisé.
Non, j'arrête, j'ai plus envie.
Non, c'est
démoralisé, c'est con.
Casser mon délire.
J'ai fait nous rêver, bordel.
Ça va que le vin est bon, c'est bon.
Trois modèles, badaboum.
Et donc, le coaching.
Non, je savais que j'étais un peu long, je sais.
Ah non, au contraire.
Non, au contraire. Donc,
mais moi, je vais y aller, hein, parce que.
Peut-être qu'il est en train de jouer depuis tout à l'heure.
Les photos, putain.
Il joue à Candy Crush.
Mais les photos en live différé sur Google Plus.
Donc, le coaching personnalisé, du coup.
Pardon.
Non, excuse-moi. Là, je disais le coaching personnalisé, donc du coup, oui, voilà. Et
pour une fois que Ludo pose une question simple.
Non, mais c'est vrai.
Ça déstabilise.
Voilà, j'ai une absence, tu vois. Je mens pas.
Et l'album de Nord sort le 8 avril.
Merci. Et puis du coup, voilà, je fais le coaching avec eux et on s'est dit les trucs naturellement. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'on était tous d'accord et raccord sur le fait qu'on voulait tous que Nord ça évolue et puis qu'on prenne vraiment le même chemin. Et c'était plutôt bien parce que finalement, après, on a enchaîné les concerts, ça s'est toujours bien passé, on a une bonne vibe.
Et est-ce que eux ont fait aussi le travail scénique?
Parce que ils ont joué le jeu à fond.
Je vais, enfin, vraiment sans plaisanter, ça se voyait. C'est-à-dire que je les ai trouvés hier beaucoup plus tournés l'un vers l'autre, quelque chose d'une présence
cohésion.
Aussi de leur part sur scène, beaucoup plus marqué qu'au Badaboum.
Complicité, cohésion. Ouais,
et on voit que tu joues avec eux aussi, contrairement à avant où là tu les interroges,
Mais ça rassure peut-être aussi d'être à 3 plutôt que tout seul, du coup, que là, en plus, vous avez créé une amitié, j'imagine, parce que en faisant tout ça, en échangeant, donc vous vous connaissez beaucoup
équivoque.
Mieux.
Oui, est-ce qu'il
ne peut pas si bien dire. Bah, complètement. Moi, ça m'apporte vraiment. En fait, je me sens à la fois libéré.
Je l'ai délivré.
Tu ne mentiras plus jamais.
Ah non. Pardon. On a regardé la Reine des Neiges hier avec les enfants.
Ah, moi j'ai échappé tout à l'heure.
Non, c'est bon, j'ai entrepôt les enfants.
Non, je fais un truc là, je pars dans la forêt. En fait, c'est un côté rassurant aussi parce que je me dis aussi, les gars, ils assurent. Grave. Et puis,
ça diminue le stress
et puis,
un peu
moi,
peut-être.
En fait, ça me tire aussi vers le haut. Carrément.
Et alors,
Aujourd'hui, pour l'instant, donc évidemment, c'est l'EP qui sort, c'est tes compos, etc. Est-ce que...
Oh, l'EP qui sort carrément.
Mais moi,
c'est
l'EP
qui sort, merde.
Forcément.
Il le dit hyper sérieusement.
Et moi, il n'y a que moi qui rigole ou pas, parce que là, il n'y a que moi qui a compris.
Mais l'EP qui sort.
D'habitude, c'est mon humour, ça.
Et donc, je vais faire la
question. T'inquiète pas, t'es pas le premier à la faire.
Sauf qu'on est... Il n'y a que...
On en attendait plus que... De toi, les oui.
Ce que je voulais dire, c'est que donc, c'est évidemment, c'est est-ce que la tendance, l'idée, c'est de rester sur ce schéma-là, c'est-à-dire que c'est soit toi qui restes le compositeur principal et accompagné oui. de musiciens, ou est-ce qu'il y aurait un vrai, une vraie notion de groupe qui se créerait en termes de compo ou pas, ou c'est pas du tout quelque chose que tu as encore envisagé parce que c'est pas d'actualité.
Si, je suis en train de l'envisager du coup, parce d'accord. que ce qui s'est passé, c'est que on a fait le EP là avec. Le premier, en fait, il y a eu un premier EP en septembre qui a été mixé par mon pote Sylvain Carpentier. Et puis après, j'ai retravaillé aussi avec d'autres gens. L'éditeur m'a présenté aussi un autre mixeur, un réalisateur, avec lequel on a fait justement le titre « L'amour s'en va ». Et puis, comme Thierry, en fait, mixe aussi, il a un G-son en fait, de formation. On a bossé dans notre coin, tous les deux, sans pression. Et en fait, on a bossé plusieurs titres, dont un qui sera sur l'EP, qui s'appelle « Il ne m'est rien arrivé ». Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, on bossait super bien ensemble. Ouais. Et pour le coup, on va faire l'album. Là, on est en train de travailler. D'accord. En fait, on est en train de travailler tous les deux pour l'album qui sortira en septembre prochain.
En septembre en fait, 2016, donc.
Ouais.
Ah ouais.
Ah
d'accord.
Oui, c'est ah oui, proche quand même.
Non, ouais. 2024,
en
mais
même,
ils sont
en même temps quand
ils ont carrément le temps.
Et la news.
En même temps, quand on te voit sur scène, on sent que t'as en tout cas, t'as un répertoire assez important pour pouvoir produire un album.
Ben, là
c'est des nouveaux titres.
J'ai calculé, j'en ai 18. Je sais pas, j'en sais rien. Non,
un triple album, carrément.
Le best-of de celui qui est pas sorti.
Il y a encore des titres qui sont en évolution. Enfin, je sais
chantier,
pas encore.
Ouais,
en
chantier, ouais.
À peaufiner, ouais. Parce qu'il y a des trucs que j'avais écrit il y a longtemps que j'aimerais bien bosser aussi, pareil, dans le même style que Drunk. Et là, il faut vraiment que je me concentre à la fois sur les paroles et puis sur ce côté détail, en fait, où chaque coup de caisse claire doit être au bon endroit, où justement, qu'est-ce que tu utilises comme matos. Et voilà, je ne me suis pas encore posé ces questions-là sur certains.
Tu parles des paroles, donc tu peux retravailler plusieurs années après, tu peux te retrouver à retravailler,
ouais.
Y compris tes paroles.
Ouais, carrément. Ouais, ça c'est dur. C'est carrément plus dur. Mais du coup, c'est pareil, c'est l'éditeur qui m'a fait prendre ça. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, là, par exemple, cette chanson-là, ton refrain, il faudrait que les paroles soient plus impactantes ou des trucs comme ça. Ou là, il est super ton refrain, mais à mon avis, tu peux faire mieux.
Tu joues un morceau depuis des années, de te réapproprier en bouche quelque chose de nouveau.
C'est pour ça.
C'est scolaire un peu.
Ouais. C'est pour ça. En gros, moi, j'avais des habitudes en fait.
Bah oui, c'est ça, oui. T'as des automatismes en fait.
Et du coup, lui il me disait, bah non, oublie tout ça et puis retravaille parce que ça peut être encore mieux. Enfin, du coup, dans cet esprit, tu vois.
Ce que je trouve intéressant, c'est le travail de remise en cause, quoi.
Mais justement, ça peut être stimulant.
Ah oui, mais le coaching doit être.
Encore une fois, c'est la confrontation avec un regard extérieur professionnel.
Oui, non, t'as raison.
T'as dit quoi? Bah, je dis le fait de se faire coacher, ça doit être quelque chose. Ça doit être vachement bien.
Mais après, il faut avoir l'humilité d'accepter aussi la critique et la remise en
bien
question
sûr.
Parce que c'est pas toujours
oui,
évident. Quand
tu peux avoir des certitudes bon quand ça fait, aussi. Quand ça fait le longtemps. Bon coach, parce que tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui vibre pas sur.
C'est ça le
avec
truc.
Avec qui tu vibres pas de la même façon aussi.
C'est-à-dire, la difficulté, c'est où est-ce que tu sens le moment où le.
Faut pas y aller.
Le gars, il est
pertinent.
Dans l'univers, en fait. Quel est le bon.
C'est hyper étonnant parce que du coup, le gars en fait, qui s'occupe de moi, éditeur, producteur, lui, en fait, il vient du rap. Hip-hop. Ouais. En fait, il a produit beaucoup de trucs de rap et puis en fait, il a fait un peu de chansons. Et là, en fait, il commence à faire du. En fait, lui, il est. Son kiff, c'est le développement d'artistes. Donc en gros, il a vu passer pas mal de jeunes rappeurs, tout comme ça. Et là, il se met vraiment à la chanson depuis 2 ans, en fait, en gros.
D'accord.
Et là, je crois qu'on est 5 artistes chansons.
À travailler avec lui, en fait.
Ouais.
L'éditeur dont tu parles, c'est Lowood, c'est
ouais,
ça.
Ouais. En fait, il est éditeur et producteur aussi.
Ouais. Non, d'après ce que j'ai compris, à chaque fois, on essayait de comprendre ce que tu voulais dire.
ton texte, à qui tu parles, qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Donc il y a eu vraiment une démarche de
artistique finalement, garder
oui, c'est pas moi je voudrais que tu fasses ça, etc. C'est je veux comprendre ouais, ta puis, démarche avant
ouais,
de.
Ouais, c'est ça, une compréhension du truc. Et puis en fait.
Parle bien dans ton micro, pardon.
Pardon. Une compréhension et aussi me libérer par rapport à certains trucs, par rapport à certaines chansons. Moi j'avais peur d'y aller, l'éditeur il me disait mais non, mais en fait tu fais quand même de la chanson, c'est un truc. En fait, j'avais du mal avec ce côté pop populaire, en fait, au départ. Ouais. Tu sais, genre
un refrain qui balance, qui part.
Exactement.
Un truc comme ça.
Un refrain. Et je faisais souvent des chansons sans refrain ou des trucs comme ça. Et puis il me disait mais mince, ta chanson, t'as fait un refrain et tu le chantes même pas. Et du coup, il me dit
assume,
c'est dommage.
Assume.
Il me dit c'est dommage, assume.
Vas-y dedans, quoi.
Refais ta chanson et refais-nous un vrai refrain ou. La chanson, elle est là, tu l'as, le truc. Et en fait, ouais, c'était ça.
Ça t'a guidé, ça t'a aidé à.
Ouais, ça m'a ouvert aussi voilà. D'autres chemins, surtout un chemin maintenant où je me situe un peu aux chansons françaises, voilà, pop, voilà, et je l'assume complètement.
Oui, aussi, voilà, c'est ça, ouais.
Ouais, on est vraiment dans la. Peut-être, la pop française.
Oui, le tout c'est trouver son identité et puis voilà, à partir de là c'est parti.
Et
quoi.
Justement, en parlant d'identité, tout à l'heure Delphine avait commencé à évoquer le sujet, tu t'es mis dans quelque chose que tu connaissais pas, ce que tu nous disais tout à l'heure, l'aspect visuel, clip,
ouais.
Avec deux clips dont un qui est assez récent et qui...
Troisième
peut-être, ouais. Excuse-moi, alors comme tout à l'heure Freddy parlait un peu des équipes, moi je suis plutôt ceux qui... qu'adhèrent pas forcément à ton univers, voilà, après c'est un... Par contre, j'ai vu ton clip... Et c'est là par contre il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est le clip à 360 degrés.
Quelle idée, qui a eu cette idée?
Ces idées là justement qui font qui est quand même sorti comme une sorte de clip, qui est quand même une quelque chose qui est fait pour mettre en avant la musique, mais la forme sert aussi à tout, et je trouve que c'était assez intéressant d'avoir cette approche de dire voilà, il y a une démarche artistique qui va au-delà de la seule musique entre guillemets quoi.
Ah oui.
Donc comment est venue cette idée et puis
Là l'idée ça est venu un peu par hasard, je te l'avoue, je le garde pour toi.
OK, ça ne sortira pas d'ici.
Rien ne sortira de cette maison. C'est
comme de toute façon personne n'écoute.
Rien n'est branché, tu sais.
Ah mais on passe un bon moment quand même.
Écoute, c'est le principal.
On pourrait retirer les casques, en fait, non?
Ouais, mais c'est...
Non, ça, ça nous fait
triper.
Finalement,
on est l'air con avec ça.
Se mettre sur les canapés, puis
c'est
voilà.
Pour les photos, c'est mieux pour les photos.
Et non, de quoi on parlait?
Le clip.
Les clips.
C'était tellement intéressant, on prend
ton
vraiment.
Oncle chat, là. Ouais.
On parlait de ton album qui sort le 8 avril. Là.
La prise vidéo à 360. Oui. Focus.
Ouais, pardon. En fait, c'est Sourdoreille qui m'avait contacté. En fait, ils avaient cette idée de 360, mais voilà.
Sourdoreille qui est.
C'est un
collectif.
Un collectif, oui. En fait, ils font plein de captas vidéo de groupes. Voilà.
C'est un site internet culturel, plutôt musique, branché musique.
Ils font
plutôt branché tout court d'ailleurs, parce que c'est très pointu en général. Il existe depuis une dizaine d'années, je dirais.
Et en fait, ils avaient jamais encore tâté le 360. Et du coup, là, ils avaient envie de faire un truc. Ils m'ont contacté en disant, bah voilà.
Il a été super bien exploité. Hein.
Est-ce que tu veux, est-ce que ça te tente de faire ça avec nous? En fait, au départ, on avait pensé à un autre lieu, mais ça pouvait pas se faire. C'était pas ouvert au public. Forcément.
Badaboum.
Chercher une connerie à dire.
Et puis,
ça n'a pas été simple à mettre en place.
Non, c'était. Et puis voilà, après le café de l'époque, finalement, c'était hyper cool parce que le gars là-bas, il est très très gentil. Et puis, ça allait bien. Dans l'histoire.
On le mettra dans le billet pour que vous rendiez compte. Mais c'est une vidéo sur laquelle Xavier chante. Et puis, il y a la vie qui se passe dans le bar, et puis on peut naviguer à 360 degrés autour du point.
Oui, mais
on voit les gens entrer par la porte. Voilà. Si on zoome un peu derrière, on voit les gens qui arrivent.
On voit même Xavier plusieurs fois dans le clip. Ouais. Mais on parlait d'identité visuelle autour du clip. Moi, je pensais, quand vous en parliez, je pensais aux trois clips de Temps Mort, de Mémorable et de Dwunk, où il y a une vraie cohérence visuelle très très marquante. Et très en lien aussi avec tes pochettes et des choses comme ça, le noir et blanc, la même actrice.
La même comédienne.
Celui qui est dans une église ou une chapelle, c'est lequel?
C'est Temps Mort.
Temps Mort, que j'ai trouvé très beau visuellement, effectivement.
C'est magnifique.
Et pour prolonger, excuse-moi, mais pour prolonger ce que dit Arnaud, du coup, cette cohérence visuelle, elle a été pensée en amont dans ce sens-là. Et donc c'est toi qui es à l'origine, ou c'est un travail collectif, ou c'est plus là, une proposition d'un réalisateur?
Et en fait, le départ, c'est on avait parlé avec l'éditeur, parce que lui, pareil, il me dit « Ok, tu fais des chansons, qu'est-ce que t'as pensé pour l'image, en fait, tout ouais. simplement ?»
Puis moi, bah, rien.
Bah ouais,
je faisais pas. Je fais de la musique, moi.
Chanter, c'est tout.
Alors, j'avais pensé, mais j'ai oublié.
De quoi tu parles, déjà?
T'es qui,
putain,
en fait?
Putain, j'arrête pas de me faire vanisse.
Oui, j'ai envie, c'est
pas fini, je pense.
Quoi, ça?
Attends, dès que tu vas être parti, ils vont tous se bouffer entre eux. Alors, donc,
on a un principe, c'est qui aime bien charrie bien.
Donc, j'avais pensé à des petits chats, okay. Et...
Ça marche bien.
Sur fond rose.
Vous rigolez, ça marche bien, ça, sur Internet. Et voilà, en fait, finalement, du coup, je dis... Ouais, en fait, et puis j'aime bien l'imagerie noir et blanc, la photographie noir et blanc, ça me plaît bien. Il me dit, ouais, ok, vas-y, on parle là-dessus. Et lui, il a fait un appel d'offres, ou je sais pas comment ça s'appelle pour les réalisateurs. Ouais. Et un gars qui a répondu avec justement aussi plein d'autres questions au niveau du format d'image, le format carré, le format 16:9.
C'était Drunk le premier.
Le Drunk, ouais, d'accord. C'était Drunk. Et du coup, aussi, il y a aussi des trucs que j'aime bien, c'est les petits tips au cinéma, en fait, en gros, des petits mouvements de caméra, les travelling, les. Et lui, il est arrivé avec le fameux dolly shot de cher à Spike Lee.
C'est-à-dire?
En fait, tu sais, t'es sur un plateau. Enfin, est-ce que je te dis le truc
C'est un secret ou pas?
Vas-y. Pas dans la merde, là.
Connaissez un petit peu Spike Lee. Oui. Et en fait, dans ces films, il y a toujours un moment chelou où t'as le personnage qui flotte et puis il avance vers la caméra.
Ah oui, ah,
oui. Ouais. Okay. Tu sais, genre Inside Man, il y a Denzel Washington qui arrive et comme ça, je crois qu'il est lieutenant ou de la police et puis... Il y a le braquage, et puis il arrive vers la caméra, comme ça, voilà, face caméra. Et en fait, il y a pareil dans Summer of Sam aussi, il y a ce truc-là, à un moment donné, le mec, il arrive.
Tu le fais bien passer. C'est pas très radiophonique, mais nous, on passe un bon moment.
Ouais, voilà. On a eu le visuel, tant pis pour vous.
Tu l'as pris en photo.
Et l'autre, il arrive, c'est comme ça, il fait. J'arrive, il fait ça, là. Vachement bien.
Je crois que tu filmais, putain.
Ah oui,
non mais on imagine la conversation avec le réalisateur. Dis-moi ce que tu aimes. Alors moi j'aime bien quand le mec.
Pour Trunk, c'est bon ça.
Et le gars il fait. Ouais, mais je vois carrément ce que tu veux faire. Hein. C'est génial.
I got it.
Ouais, je vois. Bon ben on va plutôt faire à mon idée.
On va plutôt prendre des chats.
C'était bien en fait.
Et petit chat, t'aimes pas. Et petit chat, t'aimes pas.
Les chats sur le coussin en satin rose, c'était bien. Et donc il vient avec cette idée-là.
Voilà, il est venu avec ça, avec les différents formats, et puis l'actrice que je ne connaissais pas, et puis il me dit voilà, il va se passer ça, il y a les plans sur la route, il y a tout, en fait il y avait tout. Et je dis bah écoute, vas-y, on y va. Et en fait, il a décidé de tourner aux espaces d'Abraxa. Je sais pas si vous voyez, c'est à Noisy-le-Grand. Et c'est une ville dans la ville. En fait, c'est un peu chelou ce truc-là parce que ça a été fait dans les années 70. Il voulait vraiment faire vraiment genre. Ça fait un peu communauté bizarre.
Par rapport à Quevillon, c'est loin ou pas? Pas bien.
C'est loin. Enfin,
de ce qu'on en voit, ça fait plus.
Tout est loin de Quevillon.
J'irais 208. Peut-être.
Ça fait penser à Brasilia quasiment.
Et en fait, c'est. Ouais,
une ville nouvelle, vraiment.
Ouais, en fait, le film Brasil a été tourné à un moment donné.
Ah, d'accord.
Dans avec ça. Et du coup, c'est bizarre parce que c'est vraiment une ville dans la ville où t'as au milieu t'as un arche. Une arche, je sais plus si on dit un arche ou une arche.
Une. Ouais. On dit des fois.
Si on a plusieurs.
T'emmerdes pas avec ça.
Tout des subterfuges. Ce qui est très bien dans ces cas-là, c'est de prendre l'article des films.
Remise à niveau. Niveau grammaire et orthographe. Tiens. Très bien.
Ah non, j'ai du mal, moi, regarde pas. Mais...
Tu es mon nouveau mentor.
Connerie. Ah bah t'es pas dans le caca.
Accepte.
Pas pour moi,
ça t'arrivera une fois dans ta vie.
Donc nous parlions de Noisy-le-Grand.
Oui, c'est vrai, pardon. On digresse.
Décor du
termine. Voilà, donc, du coup, pour imaginer un petit peu cet espace-là. Et puis du coup, on a fait tous les plans, les fameux dolly shots. Dolly shots là-bas. Et en fait, t'as une architecture un peu vieillissante, un peu, on dirait, soviétique, quoi, là-bas. C'est
gris,
ouais,
c'est pas beau quoi. Ouais. Un peu comme
Allemagne
dans le nord,
un peu comme
soviétique.
Voilà, non, tu peux t'imaginer plein de choses et tu peux
Lituanie.
Voilà, tu peux
oui, mais qui est très inspirant à la rigueur. Voilà.
Et du coup, rigueur, ça voilà. marchait super bien avec ça.
Et ces repérages, wow. qui a fait ce repérage-là ? C'est le réalisateur, c'est le réel.
Ouais. Il y a une telle cohérence dans les clips, et là, je comprends mieux, du coup, par rapport au package dont tu parlais, globalement, le fait qu'il ait pensé l'ensemble. Pour ma part, j'avais vraiment, et j'avais fait la remarque quand le clip était sorti, c'est que j'avais le sentiment presque que Mémorable était le préquel de Temps Mort.
Oui, bah oui, ce que tu disais. Ah oui, bah
vraiment.
Oui, oui, carrément. Mais en fait, du coup, quand il y a eu Drunk, l'éditeur a dit, ouais, en fait, moi, j'aimerais bien, du coup, qu'il y en ait plusieurs comme ça. Vous avez les travers en même temps.
On mange tous des espèces de bretzel et fait du bruit dans le micro.
On s'est tous rendu compte en même temps que ça faisait du bruit quand on mâchait.
T'en veux un ? Tu veux essayer ?
Ah, ça peut être drôle. Alors, bon, allez.
Que... Vas-y, tu vois.
Ah non, c'est dur. Non, et du coup.
J'ai plus de salive dans la bouche par contre. Hein. Vous en avez, vous ?
Ça fait pansement à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut lancer une page de pub là ?
En tout cas, c'est super bon quoi.
Moi j'ai une petite anecdote. Si je trahis un secret, on le coupera au montage. On s'est vu avec Xavier au mois de juin. On était au petit café qui s'appelle pas loin de l'Abbatiale. Tu sais, on a fait un tournage.
Oui. Alors c'était.
Je connais que ça, le nom du café.
La
café
preuve.
Comment ? Café perdu, exactement.
Ah, c'est pour ça que.
et on parlait du clip et tu me dis, bah là, on va en faire un deuxième, mais je le sens pas du tout. Ils veulent que je fasse un mort. Tu te souviens de ça ou pas ? Et tu dis, non, je vais leur dire non et tout. Et finalement, tu l'as fait.
Ah, alors, c'était.
Et alors ?
En fait, il y a eu plusieurs scénarios différents, je crois. Ouais. Non, c'était pas ça.
Tu m'avais dit ça, j'ai le souvenir que tu m'avais dit ça.
Non, parce que là, je me suis bagarré parce qu'il y a eu trois trucs. Non, il y avait le premier, c'était genre. Il voulait que je fasse un Highlander. Un mec qui revient.
Ah
qui,
ouais. C'était moins poétique.
En gros,
avec la tête de Christophe Lambert ou pas ?
Mais moi, je voyais que ça.
Le regard.
Je voyais que ça, en fait, dans l'imagerie. En fait, au départ, j'étais un moine, je sais pas.
Shaolin.
Voilà. Et après, j'étais un mec dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec des nazis partout.
Tu traversais plusieurs époques.
En fait, t'étais un Wolverine qui vieillissait jamais.
Et voilà. Et après, j'étais dans le futur, et puis j'avais à la place, j'avais, je sais pas, du slime.
Des cyborgs, machin.
Vous connaissez le slime?
Oui,
le slime.
Ouais. Ceux des années 80 comprendront.
Les jeans slime.
Ouais, ouais, c'est une espèce qui me dégoulinait du bras comme ça. Et j'ai pas eu envie de ça. Et du coup,
c'était un peu
dur, parce qu'en fait, là, du coup, les gars étaient à fond dedans, c'était le même réalisateur. Il dit, mais non, mais ça va être super, les jeunes vont adorer.
Oui.
Je dis, mais non. Et puis du coup, on est parti sur cette idée. Et j'étais pas trop chaud, en fait, vraiment, l'idée de faire le mort, là.
Alors.
Et là, du coup, j'y suis allé un petit peu reculons, mais je l'ai fait quand même. Là, c'est le temps mort, c'était hyper chaud.
En et plus, le résultat est bon.
Bah ouais, mais c'était chaud, parce qu'en plus, en fait, j'ai enregistré ce truc-là trois fois plus vite. En fait, la chanson, elle est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux faire en attendant que ça? Qu'est-ce que je peux faire en attendant dans cette pièce immense? Je pense encore à toi et je n'ai plus froid. Ça marche, je le sens quand tu penses à moi. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Et lui me dit, ok, bah tu vas la faire trois fois plus vite. On va l'enregistrer. En fait, il avait prévu un playback en x3, quoi.
Ah ouais.
Donc ça faisait, qu'est-ce que je peux faire en attendant dans cette pièce immense. Et il me dit, ok, on va faire ça et on va faire un long travelling. En fait, en gros, il faut pas que tu te chies dessus et nous non plus.
mais t'as pas la pression.
Tu sais, tu fais comme dans le film de Spike Lee.
Voilà.
Non.
Et c'était un peu dur. Et puis après, il me fait, et à la fin du playback, tu te mets dans le cercueil. Ça va être mortel.
Putain, génial.
Bah, le terme était ça.
Combien de temps de tournage ?
Bah, en fait, on a commencé à 8h du matin, on a fini à 21h. En fait, je me suis mis 50 fois dans le cercueil.
Et tout ça à l'Abbatiale Saint-Ouen, à Rouen.
Ouais. Okay. Voilà,
dans un lieu où j'avais bossé pendant 5 ans.
D'accord.
C'était mon métier avant. J'étais gardien d'église.
T'étais gardien d'église ?
Ouais.
À l'église Jeanne d'Arc aussi ?
Ouais. Ah, j'ai fait toutes les églises.
Ce qui me permet une petite transition d'ailleurs par rapport. Oui, parce qu'en fait, pour aborder un aspect ô combien intéressant de la vie d'artiste, c'est le passage d'un travail artiste.
Sinon, alors, tu fais quoi dans la vie ?
En soi. Et non, mais
ton passage, vrai boulot, sinon c'est quoi ?
Tu fais quoi pour vivre ?
Du passage d'un moment au stade professionnel ou un moment
il faut passer le cap, c'est-à-dire que le fait de passer professionnel, ça nécessite un investissement qui fait qu'on peut devoir arrêter un travail, passer à autre chose. Enfin, je veux dire, on passe à un nouveau travail. Donc, toi, tu l'as géré, tu le gères.
Gardien de cathédrale.
Voilà. Comment ça se concrètement ça se...
Je suis là, en fait, je suis encore entre deux eaux parce que je suis pas encore intermittent, mais je vais, j'espère pouvoir le devenir en juin parce que je commence quand même à faire des concerts assez régulièrement. Mais là, en fait, depuis la signature, en fait, j'ai eu une super avance du coup avec Universal qui m'a permis, en fait, d'arrêter de bosser.
Et enfin, en tout cas, ouais.
Et me dire qu'en fait, finalement, j'avais de quoi me faire un salaire tous les mois et de pouvoir vraiment
répéter quoi.
Et puis de faire mes chansons, me dire
ça, que ce serait ton boulot. Kiff,
prendre
en fait.
Ton temps,
te concentrer sur ton projet.
Ça, tu
bah, serais... En fait, j'ai eu ça et l'année dernière, en fait, j'ai connu ça vraiment la première fois de ma vie, en me dire vas-y, tu peux faire que de la musique, ouais. Finalement.
Ouais, le rêve. Ça doit être
ouais, mais génial. C'est vraiment le rêve, oui, c'est le rêve.
Ah, mais moi, ça m'a. Bah oui, ça, à partir de là, j'ai vraiment bossé, vraiment. Ah,
parce que tu bosses là, c'est-à-dire que tu consacres tes journées à faire ça. C'est-à-dire que tu peux te focaliser.
Là, on le dérange ce soir, par exemple.
Mais toujours coaché.
Je vais faire des chansons là-dessus.
Bah, si tu peux nous faire de la promo, vas-y. Hein.
Avec un texte où tu dis entrepôt.
Après, maintenant que tu fais ça aussi, est-ce que tu as quand même une liberté? Ou est-ce que tu es tout le temps, enfin, pas tout le temps, c'est pas ça, mais est-ce qu'on te reprend quand même pour te dire peut-être que ça, ce serait mieux? Tu es libre de tes mouvements?
Oui, bah oui, complètement.
Complètement?
Ouais. Après, ouais, carrément, complètement. Ouais.
T'as des délais peut-être après. Du coup,
là, c'est plus en termes de délais que ça devient un petit peu plus galère. Parce que par exemple, là, pour l'album qui doit sortir donc en septembre, fin septembre, je pense. Là, les délais, c'est tu rends tout en fin mai. Voilà, parce que il y a ce truc de promo que l'album il faut le rendre avant en juin, il faut le donner à la presse pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils aient le temps de faire des trucs dessus, que par exemple aussi je sais pas moi il y a n'importe quel reportage pour la sortie de l'album soit déjà calé en juin.
Voilà. D'accord. Une question. Pardon, vas-y Didouille.
Et l'enregistrement se fait où?
Et là on fait ce qui est bien c'est que on va faire tout dans le coin avec Thierry, justement, Thierry qui va réaliser l'album. Je bosse chez moi, d'abord, je fais comme d'habitude, je fais les bases, en fait, en gros.
Maquettes.
Les maquettes, et puis lui, il retravaille le son chez lui, il a fait son petit studio chez lui, au Ulm. Et voilà, en fait, on est entre Devil et le Ulm, et finalement, peut-être qu'il y aura peut-être un brin de mixage sur Paris. Si on n'a pas toutes les machines, toute la machinerie qui va, on va peut-être aller sur Paris dans le studio de l'éditeur. Et puis pour le mastering, ça sera pareil, ça sera à Paris, je pense.
D'accord.
Voilà. Moi, j'aime bien ce côté de rester comme ça, comme j'ai fait avant, mais de toute façon, ouais, voilà.
Et justement, enfin, maintenant que tu es signé, que tu as certainement. Tu parlais tout à l'heure de la presse, etc. Nous, on ne se considère pas forcément comme de la presse, mais est-ce que justement tu as. Des consignes quand tu passes dans des médias ou des choses comme ça pour parler des choses que tu n'as pas le droit de dire.
Est-ce qu'il a fallu une autorisation pour venir à l'entrepôt?
Non, mais par exemple, est-ce qu'il faut.
Je dis à personne.
C'est un truc tout bête, mais par rapport à de la com derrière, est-ce que toi, une fois que ton album sera sorti, est-ce qu'il faudra passer par un attaché de presse pour te contacter? C'est des trucs de novice, hein, peut-être, mais qu'on se pose comme question. Comment toi, on t'a briefé par rapport à ça? Si on t'a briefé ou on t'a dit, écoute, ton image, tu la gères comme tu veux.
Non,
tu dis ce que tu veux, ta parole est libre, etc.
En fait, c'est juste être assez précis. On m'a juste dit, quand t'es en interview, tu réponds une idée, quoi. Voilà. Tu parles pas de petit chat, par exemple.
C'est bien, tu suis les consignes à la lettre, c'est ça qui est top.
C'est dommage, c'est tellement sympa les t-shirts.
Ne bois surtout pas de vin quand t'es interviewé.
Et j'ai oublié.
On t'a soudoyé dès le début.
Non, voilà, enfin, ouais, c'est des trucs. Bon, ben voilà, normalement, c'est pourquoi Nord et tu sais pourquoi tu t'appelles Nord. Enfin, moi, j'aime bien dire.
Les corons, ouais.
Voilà, par exemple, de parler de Pierre Bachelet.
Marius l'a bien raconté.
Et des serial killers, tout ça, j'adore ça, mais. Finalement, c'est pas le propos. En fait, en gros, c'est d'être assez clair et précis en fait sur ce que tu dis. Et puis, parce que finalement, les
quelques éléments de langage, mais limités finalement.
Ouais, le genre. Non. Non, c'est bien. Je vais démasquer.
Pardon.
Oui. Et alors, une signature avec une avec Universal ou autre. C'est une signature pour quoi en fait pour
combien
un album, deux albums, un
Est-ce
5
que
ans,
c'est comme autrefois comment ça se passe pour 5 albums.
Exactement, comment concrètement c'est un essai puis après c'est renouvelé enfin
bah en fait là
en pratique
coup,
ça se passe comment
là je peux te parler que de l'édition, j'ai signé pour 5 ans et 5 ans avec c'est quoi ça ouais c'est 5 ans. En fait, il n'y a pas vraiment tout d'album.
D'accord.
Et puis après, pour le label, puisque ça sera certainement Lowood, là, c'est en négociation.
D'accord.
Donc, je
ne
peux pas te dire, bien parce qu'il y a certainement l'EP, bon, l'EP qui est là, et l'album, mais peut-être un, voire deux, je ne sais pas.
D'accord.
Moi, j'ai une petite question en vitesse.
Ouais,
en vitesse. Donc, là, tu es signé, tu as reçu...
En édition seulement.
Ouais. Mais, après, quand tu fais les concerts... C'est du plus en fait, au niveau financier. Les concierts. Oui, mais,
non,
mais c'est une question.
Je comprends ta question. Je comprends ta question.
C'est du plus. Est-ce que c'est compris dans ton cachet annuel ou
En fait, non, carrément pas. Du coup,
c'est deux choses
fait,
différentes.
C'est deux trucs différents.
Voilà.
En fait, l'édition, ils donnent ce qu'ils appellent une avance. En fait,
d'accord,
c'est une avance sur ce que tu vas percevoir de SACEM. En gros, là, tout ce qui. Par exemple, il y a la prochaine répartition de SACEM qui est le 7, je crois.
Le 8.
J'aurais dû dire le 8, le jour de la sortie de l'EP.
Ah oui, bien joué.
Et du coup, en fait, voilà, en gros, je rembourse Universal. Par exemple, si j'ai fait des passages sur France Inter, c'est eux qui vont me toucher les sous, finalement. Tu vois, parce qu'ils m'ont filé pas mal de sous avant. Voilà, en gros, en gros, c'est ce qui m'a permis de vivre jusqu'à maintenant. Et là, le relais, en fait, finalement, c'est les concerts. Bah oui, à chaque fois que je fais un concert, je suis
tu, voilà, tu prends
payé
quelque chose pour toi.
Ouais. Et c'est en cachet, quoi.
D'accord. Et c'est eux qui font tout ce travail de contact avec les radios, avec France Inter, avec les attachés de presse, justement,
ouais,
pour ton compte, en fait.
Alors, ça, c'est encore un autre truc. Ouais, les premières, en fait, quand j'ai sorti Drunk, le premier signal de l'album, en janvier. J'ai aussi eu un truc en région qui s'appelle Booster. En fait,
ouais,
Booster,
ouais,
c'est un dispositif
de la région.
On
voilà,
bien, oui.
Vous le connaissez. Et moi, en fait, dans mon prévisionnel, j'avais mis, bah, en fait, voilà, je voudrais sortir un EP avec en communication. J'aimerais bien avoir un attaché presse, en fait, en gros. Et puis, en fait, ça coûte quand même cher pour, voilà. Enfin, c'est un gros travail quand même. Et voilà, en fait, à partir de là, en mars, j'ai commencé à travailler avec Mélissa Foulpin, qui est en fait, qui est un profil indé. En fait, en même temps, elle a travaillé sur Feu Chatterton, elle a travaillé sur Fauve.
Ah oui,
qui
ont un peu fonctionné dernièrement. Oui.
Voilà. Ouais, voilà, c'est
et,
ça.
Bah, je sais plus, ouais, d'autres trucs.
Ils sont tous sur la playlist France Inter.
Et voilà, et en fait, ce qui m'a permis, en fait, de passer sur France Inter. Tu vois,
ouais,
en fait, c'est
ouais,
ça.
Ouais,
c'est qu'elle, elle avait vraiment les.
C'est vachement bien.
Elle avait ciblé
les réseaux.
Elle avait ciblé
ouais, mais
les
du
réseaux.
Coup, c'est vachement intéressant parce que France Inter, au-delà d'être dans la playlist, il y a aussi des émissions comme Énervé où tu as une nana qui va promouvoir justement des talents en devenir ou parce qu'ils viennent de la playlist. Mais tu as aussi Manoukian qui fait pas mal de trucs et qui mélange vraiment les styles et tout ça. Et
ouais,
je pense que là,
à mon avis, t'as mis... porte,
voilà.
Oui,
c'est pas mal,
ça facilite après,
ouais,
faut
voilà,
transformer l'essai.
Ouais, on a eu l'émission de Laurent Goumard après.
Le nouveau rendez-vous.
Voilà,
ouais,
le nouveau rendez-vous.
À ce sujet, j'ai une petite anecdote. Énervé. On a reçu, il n'y a pas très
longtemps.
Une
chouette anecdote, on dirait Pierre Bellemare.
Ah ouais, c'est bon.
Non mais ça va te parler tout de suite parce que tu l'as vu.
C'est ça la puissance intellectuelle.
Tu l'as vu sur scène, c'est une artiste qui s'appelle Pauline Dran qui a fait la première partie de Mika P. Hinson, ouais, avec qui c'est une belle découverte pour nous
oui,
musicale
bien
et humaine aussi, ouais, parce qu'on a pu discuter un petit peu. Et elle a fait une émission sur France Inter. Et donc j'avais fait le parallèle. Je dis, bah, tu sais, on a un ami qui s'appelle Xavier, qui est connu sous le nom de Nord. Donc elle avait situé. Et j'ai dit, bah, lui,
lui oh, seul, pas au sud ni à l'ouest, mais bien au nord. Elle l'avait situé, quoi. Donc.
Ouais, pardon, pas compris.
Je suis obligé de dire que j'ai fait exprès, sinon je passe pour un imbécile. Et elle a fait un passage France Inter, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est reconnu? Est-ce que ça t'aide pour la suite? Et elle m'a dit, mais pas du tout. Je fais, c'est marrant parce que, de ce que je sais, Xavier, ça l'a porté quand même, ça lui ouvre. Enfin, ça lui ouvre pas des portes, mais ça facilite peut-être certaines choses. Et elle me dit, mais attention, c'est différent. Lui, il est en playlist. Moi, j'ai juste fait un passage dans une émission.
Ouais.
Et ça n'a pas le même impact.
Ah, non, c'est pas le même
c'est
impact.
Vraiment la force de la playlist, c'est
bah,
ça.
Oui, c'est ça. Enfin, même si France Inter n'est pas une radio comme Énergie qui passe Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'émissions et après, c'est même.
C'est pas des faiseurs de tendance, mais.
Voilà, c'est selon les émissions, des fois, où tu passes ou pas. Et finalement, je passe pas souvent, mais je suis quand même en playlist. Ouais.
Enfin, sauf quand il y a des grèves.
Ouais, t'as dû passer à mort là.
J'attends la pote. Vivement mardi prochain.
Manifestez, les gars.
Allez-y, remboursez-moi mon avance.
Alors,
hier, t'es passé toute la journée.
Surtout un directeur artistique sur France Inter, c'est Didier Varro, qui est quand même excellent et qui déniche énormément de gens.
Et ouais, du coup, Didier Varro.
Lui et ses équipes, certainement.
Bah ouais, super. Parce que du coup, elle a. Donc, Mélissa Fulpin est arrivée avec le disque. Moi, je sortais vraiment nulle part. Enfin, il y avait personne qui me connaissait. Après, elle est arrivée avec le disque. Elle fait voilà, écoute. En fait, lui, il a dit bah ouais, je connais déjà, j'ai entendu machin.
Oh là, c'est ça, c'est la classe.
Alors là, c'est la classe.
On va le proposer. Kenkiyu au stock, quoi.
un peu. On va le connaître, Kenkiyu, d'ailleurs. Attends, on t'a pas parlé de. Excuse-moi. Non, désolé.
Moi, je connais Kyo, ouais.
Et donc, Didier Varro, donc. Après, je m'emporte et puis.
Ouais, et du coup, Didier Varro a dit bah ouais, on va le proposer en réunion d'équipe la semaine prochaine. Voilà, en gros, ça s'est fait comme ça. Et c'était le premier titre, c'était Drunk. En fait, Drunk est passé de, je sais plus, avril, et on était prolongé jusqu'à fin août.
Ah ouais, après, c'est chouette. Hein.
Après, j'étais hyper vénère parce que Temps Mort, on a sorti Temps Mort et ils voulaient pas le passer, quoi.
Et tu sais, tu sais pourquoi ou pas, non?
Alors, je crois que c'était.
Parce que c'était nul,
Pourquoi? C'était une question de goût, c'était une question de.
Je pense que ça accrochait pas parce qu'en fait, je crois qu'il y a.
Peut-être pas le format radio, cette chanson.
Ouais, il y a pas.
C'est celle où tu disais qu'il faisait 4 minutes 50 que t'as ramené à 4 minutes 28.
Non, ça, c'est L'amour s'en va.
L'amour s'en va, pardon.
Et justement, L'amour s'en va, elle est déjà en playlist France.
C'est pas un format radio, 4028 déjà c'est long pour un format radio.
C'est vrai. Oui.
Bon, excusez-moi, j'ai une question depuis tout à l'heure, personne ne veut me répondre. Enfin, personne ne me.
J'ai une question. Si tu ne l'as pas posée.
Alors, je suis un peu.
Au niveau des sous.
Quand on dit novice. Novice, non. Quand on dit playlist.
Un peu candy.
Playlist, ça veut dire quoi?
Quand on dit Bambi, ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que c'est? Vas-y, mon playlist France Inter.
La playlist, en fait, c'est l'ensemble des titres qui vont être joués sur une.
Pendant la journée.
Dans la journée.
Ouais.
Plus qu'une journée,
c'est plutôt une période en fait.
C'est
une liste de chansons qui fait partie de la programmation musicale de la radio.
Donc tu passes combien de fois par jour?
Non, j'en sais rien.
Mais tu peux aller sur le site de France Inter et dans ces cas-là, tu vas sur la playlist, t'as les titres.
Une playlist, c'est pas une playlist sur un mois, sur machin. Si tu passes, t'es quasiment sûr de passer une fois par jour.
Tu fais partie des titres programmés sur une radio globalement.
Non, c'est pas. Moi, c'est cité, mais c'est qu'il est dessus.
C'est pas une fois par jour.
Sur France Inter, ça doit être différent parce que, à mon avis, comme c'est plus des.
C'est pas les radios commerciales.
Voilà, t'as plein d'émissions. Comme je disais, des fois, ils choisissent vraiment le titre en fonction de l'émission.
Après, c'est ça.
Oui, ça.
Je pense que tu vois, ça va varier entre, je sais pas, moi, deux. 3 ou 4 fois, j'en sais rien, par semaine. Là, ça on parle en semaine, par jour.
Là, je te vois un peu déçu.
Non, mais non, carrément pas.
D'un coup, tu baisses dans son estime.
Mais il n'est pas sur la playlist, alors c'est pour ma part, et c'est un regret pour moi. Mais tu n'es pas sur la playlist Deezer de France Inter officielle.
Quoi?
Ça veut dire quoi?
Donc,
il faut que Mélissa Fulpin œuvre pour ça. C'est cette même Mélissa qui a fait en sorte qu'auprès des Un Rock aussi, tu sois très relié.
Ouais. Ouais, en fait, elle a contacté aussi Libé. En fait, ils avaient fait juste un petit truc, mais peut-être bon, ça c'était bien parce que c'était national, en fait. Du coup. Ouais. Et et en fait, elle bosse vraiment bien. Enfin, voilà, elle bosse bien. Et en fait, c'est pas, c'est assez ciblé, en fait, en gros. Et en plus, elle a un label aussi, si vous.
Ah ouais,
d'accord.
Si et je sais pas si vous avez entendu. Pain noir. Ah.
C'était le coup de cœur de Christophe.
Moi, je suis fan.
Et en fait, c'est elle qui a monté son label l'année dernière.
Merci de parler de lui.
Voilà. Et c'était une des premières signatures de Mélissa.
D'accord. Tu vois, c'est comme quoi.
En fait, on recoupe. À la fois attachée presse pour pas mal de gens en fait, et à la fois elle est directrice de label.
Oui, d'accord.
Voilà.
Alors peut-être une dernière question pour conclure.
Oui, parce que on va trop lâcher après.
Le premier EP est sorti en digital seulement, le deuxième aussi. C'est un vrai choix stratégique, marketing, comment tu expliques ça? Parce que nous, on aime bien aussi avoir l'objet en général.
En fait,
t'as pas sorti en vinyle, t'as dit?
Bah, le prochain sort en vinyle.
Ah, cool.
L'amour s'en va sort en vinyle limité. Voilà. Ouais. Oui, mais oui, c'était un vrai choix. En fait, le premier EP, c'était plutôt pour un.
Démarcher.
Puis il y avait. Voilà, je sortais, ce que je disais, c'est que je sortais de nulle part, le faire en CD, enfin, c'était pas, voilà. Maintenant, tu vends pas vraiment de CD. Voilà, tout se passait sur Internet, finalement. On avait basé vraiment plus une stratégie sur Internet, en gros, où on passait tout. Par le clip.
Ouais, d'accord.
Et puis par aussi, il y avait Spotify et Deezer qui étaient dans la partie.
Il y avait la matière clip ouais. aussi qui joue vachement.
Ouais, du coup, il y avait, voilà, et puis pas de CD, ouais, c'est vrai que ça peut déranger, mais bon.
C'est un choix, quoi.
Ouais,
très bien.
Faut faire des choix. Et bien, choisir, c'est renoncer.
En tout cas,
je partirai là-dessus.
Oh, bravo.
Merci beaucoup. Wow. Non, tu ne vas pas partir là-dessus, puisque on a quand même un invité qui va venir se greffer à notre table. Hein. Arnaud, tu vas faire un petit peu de place.
Oui,
pour notre ami JR, hein, qui est de passage à Quevillon.
Tout à fait.
Mais avant ça, on va quand même on va l'introduire, JR.
Oui, introduisons JR.
Mais pourquoi est-il si méchant?
Ma plaisir. Oui, je vais laisser la parole à JR qui a trouvé la route de Quevillon.
Bonjour JR.
Bonjour Monsieur Xavier.
Cette voix m'avait manqué.
Je me présente, Jean-Robert Frégin. Enchanté.
Pareil.
Vous pouvez m'appeler JR, mais vous l'avez déjà fait, de toute façon.
Bonjour JR. Oui.
Drôle de nom d'artiste, hein, en tout cas. Première partie. Bah si, j'ai gardé le ticket, regardez. Bertrand Belin plus première partie. Pardonnez-moi, monsieur Xavier, sous mes devoirs sérieux.
C'est la FNAC, ça. Non.
C'est vrai.
Ticket net. Ah, c'est le Tetris. Oh, les salauds.
J'aurais été plus méchant que ça.
Sous mes devoirs sérieux, j'aime me livrer à certaines facéties. Bon, non, plus sérieusement, pas facile de dresser le portrait d'un artiste aux multiples facettes. Hein. Pas facile de restituer les 50 nuances de Feugret. Votre parcours fut en effet pour le moins chaotique. Hein. Vous débutez d'abord avec un boys band que vous fondez avec trois amis de l'époque. À son nom, les points cardinaux. Et vous en serez le leader, Nord. Le groupe ne durera pas. Hein. Jean-Claude Sud vous quittera le premier pour rejoindre un autre groupe, les Bronzés, sur un malentendu, expliquera-t-il. Est fondera son propre boys band avec une autre équipe, Est Team. Et Kenny West connaîtra la carrière que l'on sait. Alors, vous fondez alors un nouveau groupe dont le nom rend hommage à une vieille prostituée rouennaise auprès de laquelle, dans laquelle vous aviez appris l'amour. Enfin, presque l'amour, devrais-je dire. Elle devait son surnom à des concurrentes qui jalousaient le petit pécule qu'elle avait accumulé au fil des ans, forte de son succès auprès des jeunes Rouennais en quête d'expérience. Dame Fortune. À la dissolution du groupe éponyme, vous ne savez plus où vous en êtes. Marius, éponyme, c'est pas le nom du groupe. C'est Dame Fortune, le nom du groupe. Donc, disais-je avant d'être interrompu par le Kenji Girac de Louvier...
Ah, l'enfoiré.
Faut attaquer.
À la dissolution du groupe, vous craignez de connaître le sort d'artistes rouennais maudits qui ne sont jamais parvenus à percer et rester inconnus à jamais. Alain Bouchon. Ouais. Bertrand Curly.
Philippe Tranchard.
Dominique B. Et Florent Couret. Vous décrypterez après. Mauvais signe pour vous.
J'ai tout trouvé.
Mauvais signe pour vous. Vous êtes à l'époque ardemment soutenu par l'association Europe & Co. Gage absolu d'absence de reconnaissance publique, s'il en est. Et le fond du trou est atteint quand Monsieur Rêve, le mal nommé, vous propose un concert dans son arrière-boutique pour fêter comme il se doit l'arrivée d'une version restaurée en DVD d'Hôtel du Nord. En fait d'hôtel, vous craignez en fait que votre carrière n'y soit sacrifiée. Bon, finalement, vous échapperez à Monsieur Cauchemar en fuyant par l'escalier de secours. Ce sont pas nos amis de Kenkiyu littéralement poursuivis de leurs assiduités par ces deux autorités de la sous-culture rouennaise que sont messieurs Jourdain et Ferron qui me démentiront. Alors vous sombrez dans l'alcool et contre...
Non mais riez pas.
Et contre toute attente, c'est ce qui va vous sauver. À l'âge où d'autres composèrent leur première symphonie en fa mineur, vous écumez les bars et composez un tube en Gewürztraminer. Inspiré de vos pérégrinations alcoolisées. Son titre, Bourré. Le refrain, Bourré en Normandie. Vous êtes complètement rond et décidez d'en faire votre nom de scène. Et c'est là qu'il faut reconnaître le génie de votre producteur, sans lequel nous recevrions ce soir... Rond, interprète de Bourré. Il vous suggère d'angliciser le titre en drunk. Pardon à Christophe Thierry s'il nous écoute. Et la Lituanie, c'est plus glamour que la Normandie, vous assure-t-il. Enfin, pour votre nom d'artiste, plus avisé que vous, il vous conseille d'opter plutôt pour l'anagramme de Rond, qui s'avère être votre premier pseudo, Nord. La boucle est bouclée. À partir de là, l'inspiration coule à flot comme le mojito dans la gorge de Madame Didouille. Vous aimez puiser vos idées dans votre quotidien. À votre dernier titre, par exemple, L'amour s'en va. À la presse parisienne, un rock en tête s'extasie devant tant de talents. Quelle escroquerie. Si les gens savaient, Xavier, hein, si les gens savaient que cette chanson, empreinte d'une apparente gravité, vous a été inspirée d'une misérable mésaventure avec l'artisan portugais qui intervient pour réhabiliter votre logement insalubre.
C'est clair.
Il n'est pas solide, votre habitation, monsieur Nolte. Le façade, il se détache. Il est en train de s'écrouler. La moule, elle s'en va, monsieur. La moule, elle s'en va. Ah, ça casse la poésie. En même temps, ça n'est pas moins poétique que l'interprétation qu'en avait faite monsieur Nico, hein, qui souhaitait vous racheter les droits pour en faire le premier titre en français de son groupe Wisdom. Une commande de leur fournisseur de bière officiel, l'Antre du Malte, la mousse s'en va. D'ailleurs, il se murmure que c'est le même maçon portugais, fan des élucubrations de la jeune et provocante Miley Cyrus, qui a soufflé à Thierry Jourdain et monsieur Freddy ici présent l'idée d'organiser un concert où vous chanteriez, je cite, « sous l'une gloche péniche ». Sitôt dit, sitôt fait, Europenco, vous organisez un concert sur le Lutèce, à Rouen, le long des quais de Seine.
Est-ce qu'on arrive ?
Un concert qui m'a secoué et pris aux tripes, j'avais le mal de mer. Et cette initiative saugrenue d'organiser votre release party au Badaboum. Un drôle d'endroit pour lancer un album. Pourquoi pas le Patatras tant que vous y êtes ?
Il n'était pas dispo.
Et puis cette curieuse idée que vous avez eue d'entonner ce tube de Sheila. C'est ma première release party. C'est ma première release party. Un bide. Bon, malgré tout, vous serez présent à La Rochelle au mois de juillet pour les Francofolies. Ah, moi aussi, j'y ai participé. Dans ma jeunesse, en 72, j'étais troisième basson dans une fanfare militaire. Et nous avions eu l'honneur de jouer dans un sympathique festival espagnol de musique, organisé sous le haut patronage du alors toujours sémillant général Francisco Franco, qui se déroulait dans une ambiance délirante. D'où son nom, les Francofolies. Ah, c'est là-bas que j'ai entendu pour la première fois cet artiste antillais, monsieur Vincent, tester un titre qui connaîtra un grand succès près de 20 ans plus tard, au prix d'une petite adaptation. Vas-y, franquisme, c'est bon. Vas-y, franquisme, c'est bon, bon, bon. Ah, votre notoriété va croissant, monsieur Xavier. Mais si vous voulez connaître un succès foudroyant, c'est simple. Oubliez tous les efforts consentis ces dernières années, les formations, les coachings, les petites scènes, les sublimes clips en noir et blanc. Non, contentez-vous de signer ici. Je serai votre Méphistophélès, vous serez mon Faust. Avec moi, vous changerez une dernière fois de nom, autrement plus valorisant. Vous serez dorénavant Hauts-de-France.
Pour combien de temps ?
Vos textes seront publiés chez Actes Sud. Vous serez élu album de l'année des lecteurs de Ouest-France et vous finirez président d'honneur d'À l'Est du Nouveau. Les gens paieront très cher pour vous voir, ce qui vous vaudra la réputation de concerts inabordables, que les gens résumeront ainsi... Sarah Connor. Pour vous, ce sera la gloire. Puis revers de la médaille, la déchéance. Les couvertures de Voici, plus scandaleuses que les unes que les autres, se succéderont. Nord à la main, l'Est, après votre dispute avec Nabila. Normand, après votre audition au sujet de ce fait divers sordide. Nord est à l'Ouest, après que Nabila vous aura quitté. Nord se perd, qui est un titre autrement plus efficace que Nord perd le Nord, après votre internement. Et Normandie, au plus bas de votre déchéance. Mais vous reviendrez plus fort, avec un titre d'une grande finesse, écrit avec la truelle de votre maçon portugais, dans lequel vous pourfendrez ceux qui vous auront mis plus bas que terre. Je cite... Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié, dites assez trop du cul que je continue de chanter. Car Nord, c'est Renault en verlan. Ma proposition pourtant chouette vous effraie ? Oh, vous refusez de signer ? Tant pis, monsieur Xavier. Je me vois donc contraint de livrer ici à la vindicte populaire le secret de fabrication de ce qui semblait l'une de vos plus belles réussites. Je vous sens troublé, Nord, désorienté. Vous tremblez à l'idée que je révèle votre terrible secret. Fini le soutien des Inrock et de France Inter quand ils sauront. Vos sources d'inspiration sont, nous l'avons dit à propos de L'amour s'en va, beaucoup plus terre-à-terre que vos fans énamourés le pensent. Mais de là à œuvrer en sous-main pour une marque d'insecticide...
On ne combat pas les insectes qui font... comme les insectes qui font... Alors contre les... il y a bégon jaune, et contre les... il y a bégon vert.
Bégon jaune, bégon vert, les deux font la paire.
À l'heure où les abeilles meurent. Cette marque, désireuse de revenir en force sur le marché français, en berne depuis l'essoufflement de la carrière de Michel Leb, vous a en effet grassement rémunéré. L'un de vos titres les plus réussis, les plus empreints de poésie, aux accents mélancoliques et ténébreux. n'est en fait qu'une commande d'une multinationale qui détruit un peu plus chaque jour notre belle planète. Votre chanson raconte en fait comment, en vacances au camping, vous avez impitoyablement terrassé les insectes qui gâchaient votre barbecue. Tant mort. Monsieur Xavier, tout le monde aura compris que je plaisante, évidemment.
Mais c'est super, ça.
Tout le monde aura compris que je plaisante, évidemment. Et pour ma part, je souscris pleinement au propos de cette jeune étudiante allemande, visiblement fan de vous, que vous besogniez hier soir à l'issue du concert. Oh. Vos chansons, j'en veux encore, encore et encore. Ce que la frêle jeune femme exprimait sous vos coups de boutoirs incessants dans sa langue natale, nord, nord, nord.
Bravo.
Ah bah dis donc.
Bravo JR.
Ce JR vraiment.
Merci JR.
T'imagines si on était passé à côté de ce mec là. Ah
ouais. Bah écoute, en tout cas merci Xavier, merci Nord. Beaucoup. D'être venu parmi nous, de t'être prêté à ce petit jeu. Hein.
On ne sait pas si tu dois partir ou pas, mais, non, mais si tu peux rester, si tu veux, évidemment.
Oui, tu peux rester comme tu veux. Ouais, on va continuer. Toi, tu pars quand tu veux. Il n'y a pas de souci.
J'ai encore deux cacahuètes dans ma main.
vite.
Virginie fait péter les cacahuètes.
Alors ça, c'est la classe. On peut faire un temps mort. Exactement. Une petite pause. Et puis, on reprend juste tout de suite après, entre nous.
C'est une soirée d'enfer ici, nous arrosons notre jeunesse. Avec cette soif de l'infini, nous buvons notre vin de messe. On ne sait pas toujours pourquoi, il faut refêter quelque chose. Et quand le cœur n'y est pas, on s'autorise toutes les doses.
Vas-y, c'est bon, il est parti.
Vas-y, donne-moi ton truc, et là, je vais le brancher.
Oh, on le critique, maintenant.
Ah, ça y est. Ah,
bravo, ah, c'est bien, ah, bravo, ah, bonjour la France, 20 sur 20.
Ah, putain, bah,
on
j'avais
vachement bien, là.
Vraiment du mal avec sa gueule. Hein.
Alors,
en fait, ça, si tu nous entends.
Alors.
Ouais, beau mec. Mais dis, il a quel âge? J'ai pas osé lui demander.
Il est assez jeune, 53 ans, en fait.
Vous le saurez pendant le quiz.
Ah!
Ben non.
Et je crois savoir.
Ah, bah oui.
Oh bah non, c'est dégueulasse, il y a un quiz.
Bon, allez, passons à autre chose.
C'est
allez,
oubliez ça, oubliez cette.
La question, ça sera pas quand est né Xavier, évidemment.
C'est plutôt quel âge il a.
Ouais. Et maintenant, la parlette de trône.
Hello and welcome. Hit the record button.
This is the American Steve. Madeline,
il t'a plu le film.
Et donc, il t'a plu le film, Ludo?
Eh bien,
de quoi
vas-y.
Tu nous causes?
Eh bien,
est-ce que c'est un film?
Aujourd'hui, évidemment, Madeleine de Prout, c'est un film. Et comme on a eu Nord comme invité, comme on a eu un bel invité, un invité musical, je vais évidemment vous parler d'un film sur la musique.
Oh, Maestro, ça c'est original.
Tu m'envoies le potage. Attention, on sort les spandex, on sort les permanentes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film culte des années 80, puisqu'il s'agit de Spinal Tap, un film de Rob Reiner de 1984. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou ne l'ont pas vu.
Pas du tout.
Ouais, t'allais dire, je ne sais pas si certains d'entre vous sont nés.
Eh bien, en fait, Spinal
Tap. La plupart, oui.
Voilà, Spinal Tap est un faux documentaire qui suit la tournée d'un groupe de hard rock anglais, Spinal Tap, la tournée US. Et en fait, c'est le premier film de Rob Reiner. Rob Reiner qui avait réalisé des films à succès comme Stand By Me, qui avait réalisé Quand Harry rencontre Sally. Et puis également Misery dans les années 90. Mais celui-là, c'est son premier film. Alors, en gros, il a du mal, lui. Qu'est-ce qu'il me fait?
C'est terrible.
C'est pas possible.
J'ai plus d'écouteurs.
Bon, bah, je.
Au secours.
Même quand il dit rien,
c'est pas possible.
Je continue, Ludo. Enchaîne.
Nord a cité une émission qui pouvait dire elle est à peu près construite, mais à l'écoute.
Non, je suis désolé. Mais non, mais j'écoutais bien avant que.
Alors, en fait,
le truc.
Comme je vous dis, donc, l'histoire, il s'agit donc d'un cinéaste qui décide de réaliser un documentaire sur son groupe de hard rock favori, Spinal Tap, qui signifie ponction lombaire en anglais. et groupe qui entame une tournée. Et donc, dès le départ de cette tournée, les problèmes à résoudre s'accumulent, en veux-tu, en voilà. Et en fait, le problème, c'est que ça va partir de mal en pis. Alors, quelques exemples, par exemple, je vais les
de
gars...
De quoi ça part?
De mal en pis. Ah. De mal en pis. Enfin, c'est parce qu'il y a l'histoire avec des vaches, donc c'est pour ça, tout ça. Voilà, bref, ils sont les pauvres gars. Donc,
je me suis abstenu, Peter.
Voilà, j'allais dire. Donc, en fait, on suit le parcours de ces gars-là. Et,
Jacques.
Voilà. Mais en fait, les gars veulent pas se laisser démonter par l'adversité.
C'est une histoire d'homosexuel, ces gays-là. Mais...
Alors que la tournée part en sucette.
Ces gays-là.
On a droit. Et vous voyez que je m'arrête pas, je décide.
Ah, t'as raison, jusqu'au
chronique.
Bout.
Bref, on a le droit à la totale sous la forme d'un reportage. Un reportage où tout y est, les coulisses énervées, les coupes de cheveux, les permanentes, les chansons qui vont bien, je vous en cite quelques-unes, hein, Sex Farm Woman, Big Bottoms, Hell Hole, etc. etc. Ici de l'album Smell the Glove, hein, Renifle le gant. Bref, alors c'est des interviews à la gloire des musiciens, tous les costards, les exigences tout aussi connes les unes que les autres, et en fait d'une bande de types qui sont complètement... mais, à l'ego surdimensionné, prétentieux, crétin, immature. C'est vraiment une...
Ça me fait penser à quelqu'un. Moi.
Exactement. Une belle, je ne sais pas à qui, mais une belle bande de nazes, en tout cas. Et okay. En fait, ce film...
Regarde, je ne sais pas pourquoi.
ce film est présenté comme un vrai documentaire. Et ce qui est vraiment très drôle dans ce film-là, c'est qu'il est tourné comme un documentaire. Le film aborde avec un sérieux, je veux dire, inaltérable, les situations mais les plus loufoques et les plus absurdes. Qui soit. Et donc, on a vraiment l'impression de voir un documentaire entre Gimme Shelter des Stones. Vraiment, c'est... Et à côté de ça, il y a une espèce d'humour complètement absurde à la Monty Python. Parce que il y a vraiment des séquences qui sont très drôles. J'en cite quelques-unes, mais je ne veux pas trop en dire pour pas déflorer le sujet. Mais les gars sont interviewés régulièrement, donc espèce d'interview à la gloire de ces gars-là. Où, par exemple, les mecs racontent comment, en fait, les batteurs, parce qu'ils ont des batteurs, et leurs batteurs sont tous morts.
Tous des cons, les batteurs.
Leurs batteurs tombent tous comme des mouches.
Et ils ont du bol.
Alors que nous, notre batteur, il a les mouches autour de lui. Mais elle tombe là,
c'est ça que tu disais, qu'il puait des bras tout à l'heure.
Et donc, voilà,
on a fait une tarte au Munster pour couvrir l'odeur de Freddy.
Oh, le lapsus.
Prends ça dans ta gueule, Freddy.
Mais déjà, hier, tu m'as fait un lapsus. Tu l'as, sans t'en rendre compte, tu avais dit ça.
Et donc... C'était... Oh, putain.
Ah, il y a des doutes qui se dégonflent.
Et donc, dans ce... Donc ce film est en fait une imposture très très réussie, puisqu'encore une fois, je vous dis, on voit ce groupe qui est en réalité un groupe fictif qui produit, qui chante sur scène avec des vraies scènes doux, mais en fait qui est un groupe qui a été complètement créé toute pièce. L'auteur Robert Heiner et le groupe de comédiens auteurs qui ont beaucoup tourné dans le Saturday Night Live ont créé ce groupe de toutes pièces, ont créé une discographie fictive, ont créé toute une carrière fictive et également tout un tas de chansons pour le film.
Il a 30 pages de notes, il regarde pas du tout. Ça m'inquiète un peu. Voilà.
Là, il passe à la deuxième ligne.
Et en fait,
Jean-Michel Digression.
Le film s'inspire de groupes de hard rock très connus.
Et on ne
peut
pas l'interrompre à la basse.
Judas Priest, Van Halen, Scorpion. Donc en fait, il se cale complètement sur les excès.
Dans la tempête, il continue. Vous
avez dans les excès de ce type de groupe. Alors ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'en
mais
plus,
oui.
les gars sont relativement âgés, en fait, curieusement. Et en fait, il y a une vraie parodie, mais qui est très érudite. Parce qu'en fait, on va suivre à travers des fausses images d'archives la carrière de ces gars avant qu'ils arrivent dans le hard rock. Parce qu'en fait, ils échouent dans le hard rock. Mais avant, les gars sont passés par des faguillés,
la vraie musique, quoi.
Donc tu suis...
C'est vrai, comment il fait? Il regarde pas ses notes?
Mais oui, parce que je connais mes notes. Parce que en fait, on suit donc le parcours de ces gars-là. Donc ils vont commencer par une chanson qui s'appelle.
C'est terrible.
On suit le parcours des membres du groupe. Essaye.
On suit leur parcours.
Faites dans votre public.
C'est ça, t'as besoin de faire ça. Donc qu'est-ce que je vous disais? Voilà, le point fort donc de Spinal Tap, c'est son espèce de réalisme. mais une espèce de réalisme complètement
décalé.
Et voilà, et son premier degré absolu, sa manière donc, comme je dis, d'être très très sérieux, et voilà, et qui en plus est inspiré énormément. Le film, il y a plein de séquences dans le film qui sont en réalité inspirées de séquences qui ont déjà qui ont existé réellement. Je vous en cite quelques-unes pour le plaisir. Par exemple, il y a une scène où les gars sont à Cleveland, ils vont rejoindre une énorme scène. Enfin, le public est chauffé à blanc là, il les attend, ils sont complètement fous. Et le public, le groupe quitte les loges pour rejoindre la scène et se perd dans les coulisses et tourne en rond pendant que le public l'attend. Et ben ça, c'est réellement arrivé. Alors c'est arrivé à Bob Dylan et à Tom Petty et les Heartbreakers après un concert où notamment Bob Dylan s'était perdu dans les coulisses après un concert. Vous voyez, c'est ce genre de truc.
Ah, ça arrive pas à la salle des fêtes de Rosé-sur-Lure.
Non, ça, c'est sûr. Par exemple, les emportements des musiciens sur la qualité de la nourriture. Il y a toute une séquence où le type se met à gueuler en disant c'est n'importe quoi. Comment est-ce que je peux faire, moi
j'ai de la merde.
C'est de la merde. Ouais, que comment on peut faire vraiment.
Petit hommage à Jean-Pierre Coff au passage.
Voilà.
C'est cool.
Pain de mie, salami. Moi, je peux pas faire un sandwich convenable avec ça. Et en réalité, donc, il s'inspire évidemment de...
Il manque la maillot.
Et en fait, il s'inspire notamment de ces groupes qui avaient des listes d'exigences incroyables. Et voilà, qui sont...
Je suis pas sûr que ce soit les groupes de rock les pires.
Eh bien, au niveau des rockstars, t'en as quelques-unes.
Ouais, c'était notamment, pas mal dans les années
80. Une référence notamment à Van Halen, par exemple. Van Halen qui en fait, avait une liste d'exigences hallucinante.
Pourquoi faut qu'on fasse une liste aussi, notamment
une dont je vais vous parler et qui a été reprise dans Wayne's World 2.
C'est ce que j'allais dire, les M&M's.
Et les c'est vrai. Les M&M's, exactement.
Alors, sauf que là, c'est Ozzy dans.
Voilà, mais les M&M's ne sont pas dans le.
J'ai quoi ce merdier, j'ai pas mes pépitos.
Là c'est plus une anecdote par rapport
à. On va filer des granola.
Si vous permettez, j'ai une anecdote.
Vas-y, Freddy.
Juste 5 minutes.
Vas-y, frère.
Sur Xavier ou pas?
Iggy Pop qui est venu au concert de la région à Rouen.
Oui.
Je sais pas si vous vous souvenez.
Oui, il y a 2 ans.
Pour le coup, il avait une liste d'exigences qui était à prendre. On savait pas si c'était à boire ou à manger, c'est le cas de le dire. Et c'était au point qu'il avait exigé une petite télé avec des dessins animés dessus. Et je me souviens de l'équipe qui s'était gratté la tête en disant
mais se fout de notre gueule. Mais c'est
des dessins animés, c'est du sketch quoi.
Ah mais
ça.
Et puis d'autres, là moins drôles, qui demandent. 6 bouteilles de telle cuvée.
Ouais.
C'est autre chose.
Mais c'est intéressant. Pour les M&M's, pour Van Halen, il y aurait une explication à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les M&M's, pour expliquer de quoi il s'agit, c'est-à-dire que Van Halen exigeait d'avoir des M&M's en quantité astronomique sur leur concert. Par contre, que tous les M&M's marrons.
Soient marrons.
Non.
Ah, c'est contrairement.
Qu'il n'y ait aucun M&M's marron.
Soit jeté.
Soit jetés, tous triés pour qu'il n'y ait aucun M&M's marron et que si jamais il y avait des M&M's marron, ils foutaient le bordel partout.
Et c'est le contraire dans Wayne's World justement. C'est que Ozzy ne monte sur scène que s'il y a des M&M's marron.
Et bah en fait, la référence, c'est justement, ils ont pris à l'inverse.
Je l'ignorais.
Et alors, voilà. Et en fait, donc, donc ils exigeaient qu'il n'y ait pas un seul M&M's marron dans les M&M's qui sont faits. Alors,
cela étant, c'est quand même absurde.
En étant une consommatrice.
Non, les marrons, c'est meilleur.
Franchement, il y a aucun goût, c'est pas la question de couleur, c'est les mêmes.
Dans les crocodiles Haribo, il y a une différence. Alors, mais
même le Dragibus.
Il y a une explication à ça,
continue,
en fait. Il y aurait donc une explication à ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment.
D'ailleurs, c'était pas M&M's.
La fermer ta gueule.
C'était Tritz.
C'était Tritz. Ça pouvait pas être M&M's à l'époque Van Halen.
Donc c'était des M&M's. Parce que.
La Miss Brown, elle existe que depuis peu.
En tout cas, en France,
aux États-Unis peut-être.
Voilà. Donc pourquoi les M&M's marrons? Parce qu'en fait, Van Halen avait une liste.
Ça c'était la rubrique tarte au poil. Hein, à propos des Tritz et des M&M's.
Van Halen avait une liste en fait d'exigences notamment sur la sécurité. Et en fait c'était une manière de s'assurer en disant que si les mecs ils avaient fait le tri comme il fallait, ça veut dire qu'ils étaient s'assurés que les mecs avaient bien lu et qu'ils prenaient au sérieux toutes les consignes de sécurité qui avaient été.
C'était le détail qui tuait. Voilà.
En gros ils considéraient que si ça n'avait pas été retiré.
C'est qu'ils n'avaient pas lu la liste.
Ils n'étaient pas sûrs que les mecs avaient bien respecté toutes les exigences de sécurité prévues dans le contrat.
Dont certaines qui étaient certainement plus sérieuses.
Voilà, c'est un aparté, mais je trouve que c'était plutôt...
Enfin, marron, je trouve ça un peu...
Un peu bizarre.
Enfin, c'est pas con.
Bref.
Non, mais ça tient dans ce qu'il dit.
Donc,
on laissera Marius sa logique.
Donc, comme je disais, j'en finis là-dessus.
J'ai une bague de logique, moi. Vas-y, fais-nous rêver, toi.
Donc voilà, en fait, donc du coup, c'est quelque part entre le talent et le ridicule. Hein, c'est le film n'est que ça. C'est un hommage, vraiment, c'est un hommage féroce, mais c'est vraiment un hommage affectueux au genre. Faut vraiment voir les gars qui passent de très grosses scènes à des salles de plus en plus minables. C'est vraiment en tout cas moi je trouve à mourir de rire. Il y a tout un tas de choses, je peux pas toutes les raconter, faut le voir. L'ampli à 11, tout un tas de choses de ce genre de détails là. Je sais pas, tu voulais dire un truc JR? Non,
je veux dire que comme te le dit Didouille tous les soirs, tu donnes envie en fait.
Voilà, ben j'espère. En tout cas, faut juste savoir, et je conclurai là-dessus, c'est que d'un groupe fictif, ce groupe...
Toi, tu vis sur la fiction, Arnaud.
Pour conclure.
Poisson d'avril.
En fait, pour conclure, c'est que ce film qui est sorti en 84, en fait, a été diffusé dans un festival en France. C'était en 86 au festival du film rock du Val d'Isère, mais qui n'est sorti qu'en l'an 2000 en réalité. Par contre, ce film a acquis un vrai statut culte dans le milieu, et en plus, c'est vraiment un film à voir.
Jamais entendu ce nom, et j'ai déjà oublié.
Et je pense notamment à Alain Chabat.
Alain Chabat
est un
fan dingue. C'est un film à voir vraiment.
Tu peux me redire le nom?
Spinal Tap.
Spinal Tap.
Je confondais avec Anvil en fait.
Ça n'a rien à voir, mais c'est aussi un truc un peu.
La seule différence,
c'est quand t'as mal à la tête et que t'as envie de vomir.
La seule différence, c'est qu'Anvil, c'est un groupe qui est réel, et on suit un peu. C'est un peu le même principe.
Oui, mais voilà, Anvil, c'est pour ça, quand tu m'en as parlé, je suis confondu avec ça en fait.
Anvil s'est calé sur le schéma, c'est-à-dire on les suit en tournée avec tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Si vous avez l'occasion, il faut le regarder. Moi en tout cas j'ai trouvé ça très drôle,
avec plaisir.
Ça fait sourire.
Faut que tu me redises le nom.
Et il y a beaucoup de
tu tapes Segala dans Google.
Donc, il te reste une page.
Je veux juste terminer là-dessus en disant qu'en fait, d'un groupe fictif, le film ayant marché,
vit un vrai groupe.
Exactement. C'est vrai. Puisqu'en fait, le groupe qui était fictif a poursuivi sa route en sortant. D'ailleurs, ils ont sorti 3 albums en tout. De façon espacée, donc 84, l'album qui correspondait aux chansons du film. 92, qui était un album qu'ils ont sorti après coup sur le succès. Et en 2009, ils sont revenus avec l'album. Ils ont même chanté au Wembley Arena en fait à Londres. Ils ont fait une tournée américaine.
Ouais, quand même.
Voilà.
Ouais,
mais
un peu comme Michael Youn qui a fait des trucs derrière. Voilà. À une carrière musicale.
Mais après voilà, tu peux partir sur le principe de Tenacious D ou ce genre de choses là, tu vois, ou Tenacious D, voilà, qui Tenacious D qui.
Je préfère cette référence à Michael Youn.
Voilà. Tenacious D qui est un film que je recommande.
Ah, l'élitisme.
Tenacious D est un film que je recommande hautement, mais dont je pense que Starlet Pico pourrait en parler largement.
On en a déjà parlé.
Enfin bref, ce sera un autre sujet s'il fallait en reparler. Et voilà. Voilà,
parce que c'était génial.
Je vous conseille.
Non, ça donne envie.
Je vous conseille vraiment de regarder. C'est
Starlet. Ça s'appelle comment le film?
C'est Marius.
Spinal Tap.
This is Spinal Tap.
This is Spinal Tap.
Et de toute façon, ça sera sur le billet de l'entrepôt.
Oui,
donc
vraiment.
Vous pourrez retrouver le nom si vous perdez la mémoire toutes les 30 secondes.
Mais ça,
il
n'y
a pas de problème. Revenez sur le site. Faites du clic.
Vraiment, je vous dis
ça. Xavier qui est un peu contagieux.
Super fort.
Voilà, au plaisir.
Allez, bisous.
Très bien. Eh ben, écoute, moi, je vais prendre le relais puisque je vais parler.
Spinal Tap.
Mais alors, ça va être moins drôle, mais forcément.
Est-ce que ce sera moins long?
C'est pas sûr. Je vais essayer
ça
de faire.
Ça dépend si t'es coupé ou pas.
Je vais essayer de faire pour que ça soit au moins dans le même tempo. Bref, je vais rester dans l'aspect documentaire également.
Ah, ça commence déjà à être chiant.
Avec des films documentaires.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. D'accord, chaboutadouti.
Tiroir. Oui, mais aujourd'hui c'est un sujet sur deux films documentaires, donc on reste finalement dans la thématique. Alors c'est pas
docu,
du
en fait.
C'est pas du tout musical ce coup-ci.
On reste dans le docu.
C'est pas rangé.
Moi, non, c'est pas mon style.
Donc le premier film s'appelle Going Clear en anglais.
Delphine, qu'est-ce que tu viens de dire?
Vas-y, Nico, je t'écoute.
C'est pas bien. Scientologie sous emprise en français.
Attends,
et le second, c'est Citizen 4, donc sur Edward Snowden. Donc le premier, Scientologie sous emprise, donc son nom l'indique, parle de la Scientologie, donc
sous emprise,
quelque chose dont on entend parler depuis un moment, mais moi jusqu'à présent je savais pas vraiment de quoi il s'agissait. C'est assez hallucinant en fait, clairement. Hein, faut être.
Scientologie,
ça paraît oui vu de l'extérieur, mais moi je me rendais pas. Exactement, c'est Tom Cruise, John Travolta.
Ah, c'est les deux, c'est ceux que je.
Donc, Scientologie, c'est un film d'Alex Gibney, enfin, Going Clear est un film d'Alex Gibney qui est adapté d'un best-seller à la base, de, qui est donc un livre de Lawrence Wright. C'est impressionnant parce qu'on voit de l'intérieur ce qui se passe par rapport à ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est-à-dire les exubérances de Tom Cruise de temps en temps, etc. Voilà, on en a une vision un peu édulcorée finalement. Parce que l'intérieur, c'est incroyable ce qui peut se passer. Donc, ça revient depuis la fondation de l'église par Ron Hubbard. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ron Hubbard. Ludo en a entendu parler. Les autres aussi, visiblement. Donc, ça a été créé dans les années 50. Bah oui, il y a plusieurs qui disent oui. Donc, oui.
Ça n'a rien à voir avec Joe Bart.
Romancier américain de science-fiction à la base.
Exactement. Science-fiction et fantasy.
Terre champ de bataille, notamment. C'est son œuvre principale.
Plein de choses, visiblement. Des romans un peu de guerre de temps en temps, des pulps, etc. Jusqu'à maintenant son développement qu'on peut connaître actuellement. Donc, il y a une des sectes les plus secrètes et les plus puissantes des États-Unis.
Il y a tout qui est par la Dianétique, en fait.
Exactement. La Dianétique qui a été son levier, qui l'a fait connaître du grand public. Ça s'appuie donc ce documentaire qui est aussi un film, hein, je précise, c'est pas qu'un documentaire, sur des récits de membres repentis, on peut dire, qui témoignent à visage découvert sur des images d'archives et de propagande de l'Église pour étayer un peu les propos, et ça glace le sang de temps en temps. Ça montre comment, une fois que les gens sont dépourvus de leur libre arbitre, ils étaient prêts à tout suivre complètement la doctrine imprimée par Ron Hubbard à la base, mais qui finalement, à la rigueur, on peut dire, il était presque bon enfant comme garçon. C'est un peu halluciné, mais maintenant c'est David Miscavige qui lui est devenu un leader omnipotent, qui est devenu presque un dictateur dans l'histoire du truc. Voilà, c'est impressionnant le culte de la personnalité qu'a mis en place cette personne et qui recule devant rien pour assouvir son pouvoir, donc des sévices, du chantage, de la manipulation, etc. Mais comme le dit un repenti d'ailleurs, c'est assez ce qui glace à la fois le sang et qui peut faire écho avec des événements récents, c'est il suffit d'avoir la foi pour ne plus penser par soi-même. C'est-à-dire que les gens oublient complètement leur libre arbitre et ils obéissent à des réflexes conditionnés, etc.
Propre à toutes les sectes finalement.
Oui, mais complètement. Non, mais des fois on se dit, enfin dernièrement on a eu l'occasion de l'entendre régulièrement avec les événements qu'il y a eu, c'est comment les gens peuvent en arriver à ce genre de choses. Et quand tu vois ce documentaire-là, même si c'est pas sous le même angle, tu te dis, mais c'est incroyable, parce que justement, c'est pas des gens complètement débiles. Maintenant, les repentis, quand ils entendent parler, tu te dis, mais comment ces gens-là ont pu prendre part à cette mascarade?
Et je me suis dit la même chose fragiles. À propos de l'anthropode.
C'est un peu ça. Je me prends un peu pour David Miscavige d'ailleurs.
Voilà. Les sévices.
J'étais très méchante.
Ouais, j'étais méchant souillon.
Et du coup, on a notamment Paul Haggis. Donc Paul Haggis qui est reconnu pour être le scénariste de Million Dollar Baby, Mémoire de nos pères, Les lettres d'Iwo Jima, Casino Royale et Quantum of Solace, donc quand même des films qui ont fait un gros carton au box-office et à Hollywood, puisque la scientologie est bien implantée à Hollywood. Et sont également interrogés d'anciens cadres très très haut placés, c'est-à-dire qu'il y avait le numéro 2 de la scientologie qui a claqué la porte et qui est parti. Et quand on le voit un peu se repentir justement sur ce qu'il a fait, on sent que c'est aussi une catharsis un peu pour eux de dire un peu ce qui se passe, parce que ça les ils ont honte d'avoir fait 30 ans dans ce fonctionnement. En fait, et maintenant par contre d'avoir fait ça, ils ont plus personne. C'est-à-dire que tout le monde leur a tourné le dos. La scientologie, leurs amis, puisque tout le monde était des scientologues, parce que pendant 30 ans tu ne vois que des scientologues quand c'est comme ça. Et du coup, tu les vois qui sont aussi harcelés par la secte, eux, leurs proches, les gens qui veulent un peu témoigner, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la scientologie, à la base, c'est quelque chose qui a été créé par un scénariste de science-fiction. Et quand on voit un peu ce que ça couvre, c'est hallucinant. C'est-à-dire que la croyance mélange un peu de développement personnel, de psychanalyse, de technologie. Donc jusque-là, on peut dire pourquoi pas. Et par contre, ça utilise un petit peu des systèmes un peu d'audition. C'est-à-dire que les gens sont convaincus d'être habités par des aliens. Et qu'en fait, ils font des séances un petit peu de psychanalyse où ils se confient à des gens pour faire une sorte d'exutoire pour ces aliens qui s'en aillent. Donc la scientologie donc, cherche à débarrasser les humains des aliens qui habitent leur corps et qui seraient initialement, alors ça c'est hallucinant, des esprits prisonniers d'extraterrestres plongés dans des volcans dans lesquels on a fait exploser des bombes nucléaires pour les faire disparaître.
Ah, mais sans déconner, ils pensent, ils croient ça.
Mais c'est ça qui est hallucinant.
Au secours.
Et du coup,
bah, écoute,
en fait, ce qui se passe, c'est que les gens n'apprennent cette partie de la scientologie qu'au stade niveau 3 d'initiation, c'est-à-dire après une grande phase d'endoctrinement, parce que c'est ce qu'ils disent.
Et de lavage de cerveau.
Ils te disent pas ça le lendemain.
Ils te disent si c'est le premier jour, il y a personne qui adhère à ça. Mais une fois que tout est accepté, les gens, une fois ils sont partis, et puis ils sont partis dans cette espèce de course à l'évolution, à l'initiation pour arriver jusqu'au top niveau, etc. Et ils font complètement abstraction de ce qu'il y a derrière cette église.
Mais heureusement que Moaldor et Scully reviennent.
Est-ce qu'ils
est-ce qu'ils ont un réel pouvoir sur l'économie américaine?
Je vais venir sur la conclusion.
Parce que pour l'instant, c'est bon enfant, finalement.
En fait, tu nous spoil le documentaire.
Non, parce qu'il faut le voir, franchement. C'est intéressant parce qu'on voit justement le pouvoir de manipulation des masses, parce que c'est quand même un grand nombre de personnes qui sont prises dans ce fonctionnement. Et donc, on parlait de l'audition, et en fait, les auditions, qui sont en fait, mine de rien, un moyen déguisé de transformer ça en arme de guerre contre leurs propres membres. C'est-à-dire que les gens arrivent là en disant, un peu sur un ton de développement personnel, de j'ai besoin de me confier sur certains sujets, et en fait, l'auditeur, lui, note tout, un par un. Et c'est notamment le cas de John Travolta, qui s'est confié sur plein de sujets, etc. Et on voit que maintenant, il ne peut plus quitter la secte, parce que la secte a tellement de dossiers sur lui qu'il le menace de chantage. À chaque fois qu'il menace un petit peu de partir, etc., on dit, écoute, on sait ça sur ton frère, sur ton machin, sur ton truc que tu nous as confié, etc. Mmh. Et en fait, il y a un pouvoir de nuisance. Et on voit qu'ils ont un pouvoir sur la vie de leurs membres, parce que là, je viens de parler de Travolta, mais ils ont aussi, on parle de Tom Cruise.
Bah oui,
Tom Cruise,
lui,
oui, mais pendant des années, il s'en était détaché avec Nicole Kidman, ouais. Parce que Nicole Kidman avait son père qui était un psychologue reconnu en Australie, et la secte a justement vu ça comme quelque chose de nuisible. Donc ils ont tout fait pour pourrir la vie, pour faire que Tom, parce qu'il s'était détaché complètement, et ils ont dit, écoute, c'est dangereux pour nous, Tom Cruise est un ambassadeur, il faut qu'il se sépare de Nicole Kidman. Donc ils ont tout fait pour que le couple casse, que ses enfants renient leur mère.
Oh, les bâtards.
C'est-à-dire qu'elle a plus droit de visite sur ses enfants, qui considèrent que c'est une hérétique, etc. Et ils lui ont construit une fiancée factice, etc., etc. Enfin, c'est un truc assez hallucinant. Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et comme disait Christophe tout à l'heure, ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'ils ont quand même gagné un bras de fer contre le fisc américain. C'est-à-dire que, enfin, le fisc qu'on voit commencer en France, on se dit qu'aux États-Unis, ça doit quand même quelque chose d'une administration vers lequel, quand t'es confronté au fisc, t'as un peu peur. Eh ben, eux, non. Ils y sont allés.
Fisc fucking.
Exactement. Ah, joli. C'est exactement ça. Ils avaient donc un milliard d'arriérés d'impôts, puisque, n'étant pas considéré comme une religion, ils devaient payer des impôts. Et ils se sont rendu compte qu'un milliard d'arriérés d'impôts, ils pouvaient pas y arriver. Donc, ils ont entamé un bras de fer. Je vous dis pas comment, mais ils ont fini par le gagner, ce qui fait que le fisc s'est assis sur un milliard d'impôts d'arriérés de la scientologie et l'a considéré désormais comme une religion qui a pignon sur rue, qui peut faire ce qu'il veut, au même titre que n'importe quelle religion, malgré tout ce qui peut être reconnu, etc. Enfin, quand on voit le truc, c'est assez hallucinant. Donc, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, Didou, on met en parallèle avec les trucs comme X-Files, où on se dit, il y a des puissances un peu obscures, occultes, etc. Il y a des complotistes, etc. Ou de temps en temps, tu dis,
la théorie du complot. Et,
ouais, mais moi, ça me fait doucement rire en général, mais quand tu vois des documentaires comme ça, tu te dis que, mine de rien, sans tomber dans les trucs un peu complètement farfelus, la réalité dépasse, ou rejoint au moins la fiction, sans la dépasser, mais en tout cas, des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver un peu ce qui se passe.
Et moi qui me suis déjà pris une puissance occulte, je peux dire que...
Alors ça, c'est marrant parce que j'y pensais tout à l'heure et j'ai pas osé la faire. Celle-là,
je voulais pas dire occulte en plus au début, ouais. Mais c'est sorti comme ça. Je sais pas pourquoi.
Je me suis dit, je vais laisser. Il y a bien quelqu'un qui la fera pour moi.
Ça, c'est vraiment le premier film documentaire que j'ai vu la dernièrement, que je trouve très bien. Et le second, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, je vais filer un peu le sujet des séries. Non, il y en a que deux. C'est des séries TV, puisque je vais continuer sur le risque et les dangers liés au tout connecté. J'avais parlé de Mister Robot il y a pas très longtemps dans mes coups de cœur, qui est justement lié à cette problématique. Et là, ça concerne les révélations d'Edward Snowden. Donc, Edward Snowden en 2003, 2013, pardon, qui a révélé les écoutes à grande échelle de la NSA. Non, ça, c'est Julian Assange.
Ah, et donc, ça s'appelait?
Lui, c'était, alors, le documentaire s'appelle Citizen 4, et lui a révélé les écoutes à grande échelle de la NSA, les écoutes du téléphone de Angela Merkel, de Google, etc., qui laissaient des portes d'entrée à la NSA, etc. Donc là, c'est un film documentaire de Laura Poitras, qui nous plonge donc dans ces révélations, dans les coulisses de ces révélations. Donc Snowden est quelqu'un d'assez qu'on peut croire sur parole, enfin entre guillemets, puisqu'il travaillait comme sous-traitant de la NSA en termes de renseignement et il bénéficiait de l'autorisation de plus haut niveau. Donc il sait ce qui se faisait dans les critères de la NSA et il avait choisi lui-même les journalistes à qui il voulait faire ces révélations. Donc Glenn Greenwald du Guardian et Laura Poitras, qui est la réalisatrice du documentaire. Et il s'est installé à Hong Kong pour faire ses révélations, parce que c'est un pays qui, en termes d'extradition administrative, et il savait qu'il n'y aurait pas trop de danger de la part des États-Unis. Il ne risquerait pas de tomber sous le coup d'une extradition. Donc, il est parti à Hong Kong sans prévenir ses proches, ni sa petite amie depuis longtemps, etc. C'est un film qui est très fort sur ce qu'il raconte, puisque c'est l'espionnage à grande échelle d'une grande partie de la population mise en place par les États-Unis et la NSA. Mais aussi, il est très fort sur la façon dont il le raconte. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un documentaire. En termes cinématographiques, il est très bien amené. On a une vraie histoire d'espionnage, finalement, avec sans scénario préétabli. Et puis avec des acteurs qui jouent vraiment leur rôle. Enfin, c'est pas des acteurs qui jouent un rôle, justement. C'est des gens qui vivent leur vie au quotidien, puisque c'était tourné dans les conditions du direct à l'époque. Donc maintenant, on connaît un peu l'impact que ça a eu, avec des pays qui ont demandé aux États-Unis de s'expliquer sur ces sujets-là. Mais à l'époque, c'était un peu un coup de poker. C'est-à-dire que Snowden, il ne savait pas trop ce que ça allait donner, cette histoire-là. Donc on voit un petit peu le moment où ça balbutie, il ne sait pas trop ce que ça va donner. Il choisit ses journalistes, ils ne savent pas sous quel angle est-ce qu'ils vont faire des déclarations papier, des déclarations écrites, etc. Tu sens qu'il y a des moments où le stress leur fait perdre complètement pied. C'est-à-dire qu'une alarme incendie dans l'hôtel dans lequel ils sont, ils commencent à se demander, ils deviennent parano sur certains sujets. Est-ce que c'est une vraie alarme? Ils osent pas appeler la réception, ils débranchent son téléphone. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le hall, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et durant tout le film, on sent la tension qu'ils ressentent tous. Et d'ailleurs, ils ne sont pas vraiment plantés, parce qu'une fois que le documentaire et les révélations sont sortis, ils ont été considérés comme des traîtres, ils ont été harcelés, leurs proches ont été ennuyés. Finalement, pendant tout le film, c'est là, en termes cinématographiques, il n'y a que deux protagonistes, trois. Il y en a un qui intervient de temps en temps. C'est un huis clos, finalement. Et malgré tout, Laura Poitras, qui est la réalisatrice, elle est en tant qu'observatrice, mais elle prend des partis pris de cadrage, de montage, etc., qui font que le film dure un peu plus de deux heures, mais on est pris dans le truc. On oublie presque que ce sont des gens qui... C'est quelque chose qu'ils ont vécu à cette époque-là. Et du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Et le film est très bon par rapport à ce... à ces sujets. Donc voilà un petit peu pour le deuxième, donc ça s'appelle Citizen 4. Parce que Edward Snowden s'était présenté comme ça auprès de Laura Poitras, parce qu'il ne voulait pas révéler forcément qui il était. Donc, il s'est appelé Citizen 4, donc d'où le nom du film. Donc pourquoi je présente ces deux films documentaires qui ont un lien, mais enfin a priori comme ça, sans forcément en avoir. Déjà parce que moi je les ai vus dans un intervalle assez proche, il n'y a pas très longtemps. Et puis ils font un peu écho à notre actualité un peu trouble actuellement, puisque ça parle un peu de la force du renseignement, mais aussi le pouvoir de contrôle des esprits, le pouvoir de la scientologie, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça permet d'expliquer de temps en temps comment, avec les bons mots, avec la bonne chose, on arrive à faire complètement abstraction de notre libre arbitre et puis faire des choses complètement incompréhensibles pour le commun des mortels.
L'esprit critique.
Sans lancer un débat sur le renseignement, etc., parce que c'est pas le lieu et puis on n'a pas le temps. Mais les deux sujets se rejoignent, puisque dans les deux cas, on récupère un max d'informations sur les populations sur lesquelles on a un certain pouvoir, entre guillemets, pour mieux pouvoir un petit peu les contrôler, voire les retourner contre elles derrière. Donc, même avec les meilleures intentions du monde, en fait, le problème, c'est pas la collecte d'informations, de mon point de vue. Enfin, c'est ce que révèle ces documentaires réalisants. C'est un peu derrière ce qu'on peut en faire. Comment derrière ça peut être exploité. Parce que ces informations, une fois collectées, surtout à l'insu des personnes, parce que dans les deux cas, c'est des gens qui ont l'impression ou bien, dans le cas de Snowden et de la NSA, les mecs qui relèvent les trucs de ton téléphone, de ta carte bleue, tu t'en rends pas compte. Ou dans le cas de la scientologie, c'est en toute confiance, t'as l'impression que tu vas te libérer d'un truc. Derrière, c'est des informations sur lesquelles tu perds complètement le pouvoir. Ça peut devenir des armes sur les gens qui les ont confiées. Donc ça mérite un peu qu'on s'y penche, à mon avis, mais voilà. Et puis, juste pour les gens qui, souvent, quand on aboque ces sujets de renseignement, etc., les gens disent « Ouais, mais moi, j'ai rien à reprocher, donc je suis d'accord sur le renseignement généralisé, ça me pose pas de soucis. » Moi, à titre perso, la vie privée, l'intimité, ça reste du domaine personnel. C'est à chacun de voir ce qui est privé, ce qui doit l'être, etc. Et puis c'est un exemple, c'est même si j'ai rien à cacher, quand je vais aux toilettes, je ferme quand même la porte. Voilà. C'est un détail qui est tout con.
C'est pas mal comme ça, image. Attends, t'es un peu. Attends, excuse-moi, mais attends un moment.
T'es un petit peu limite.
C'est même pas vrai.
On est au 21e siècle.
À la maison, je ferme pas forcément. Mais à l'extérieur, chez les autres, voilà, c'est ce que je dis, c'est que le domaine de personnalisation.
Tu fais pas caca devant tout le monde.
De personnalisation. dépend n'est pas systématique, mais ça, dépend du contexte. Ça,
voilà. Marius, remets ton pantalon.
Donc, juste pour finir sur le sujet, donc comme j'ai évoqué dans les deux cas, je parle de ces documentaires déjà parce que je trouve qu'ils sont intéressants sur le fond, mais aussi c'est que sur le plan cinématographique, de mon point de vue, ils sont aussi très réussis. Le montage, à chaque fois, les gens ont fait un effort. Hein, la forme sert aussi le fond. Il y a les deux qui sont jumelés. C'est vraiment des choses intéressantes à voir. Donc je rappelle les deux noms. Donc Scientologie sous emprise ou Going Clear en anglais, et puis Citizen 4. Citoyen 4. Voilà pour mes sujets.
C'est quoi maintenant? C'est le quiz, hein. C'est le quiz, non?
Je vous propose justement, effectivement, de passer la parole à notre ami Freddy avec
comme
le
quoi.
Quiz. J'aime.
Bah, comme ça, c'est sur la chanson française, on est mal. Regarde cette mine de
riz. Il est chaud, là. Il est chaud.
Cette mine de ravi de la crèche.
Je suis bon dans la chanson française.
Vous connaissez Freddy, c'est prof de prise d'imagination.
Exactement.
Ouais. Freddy, tu te caches. Ça vaut un point, ça, ça vaut un point.
C'est bien, Arnaud.
Vas-y.
Oh, les lèche-boules.
Allez, deux points par jeu.
Deux points, un par boule.
On peut faire un tir. Allez. Est-ce qu'on peut faire, Nico, un petit rappel des scores?
Non, c'est pas
moi, je veux bien parce que je suis en tête.
Voilà. Donc,
vas-y. J'ai 11 points, suivi par Ludo avec 9,5 points.
Bah, je croyais que c'était moi.
Suivi par Arnaud, 9 points. Ensuite, nous avons Didouille avec 4 points.
Ouais, mais on a que des cadres.
Christophe, 3,5. Et se suivent ensuite Starlet, Marius et même Freddy avec 2 points.
Hey, big up.
Je sais pas si je suis aussi nul que vous. Allez, vous êtes prêts?
C'est parti.
Ce soir, j'ai 10 questions. J'attends
Vous
allez vite comprendre de quoi il s'agit.
Vas-y, fais péter.
J'y vais pour la première question.
Bêche-toi.
Qu'est-ce que l'enfer du Nord?
Paris-Roubaix.
Ah oui,
putain, tu fais chier, je le savais.
C'est des questions sur autour de Paris.
Ah oui, c'est les pavés. Non, en fait,
vous,
pavés du Nord.
Vous avez préparé le quiz ensemble hier
cyclisme.
Soir.
Cyclisme. Hein.
Exactement.
On y va?
Noroto.
Norwich Union.
Écoutez bien, dans quelle ville du Nord est muté Philippe Abrams?
Dunkerque.
Lille.
Maubeuge.
Philippe Abrams.
Bah, ah, Berg. Mais oui, je
Berg.
Sais.
Berg. Point pour Nico.
C'est bien du Stein, évidemment.
Je cherchais.
C'est Cadmerade, Philippe Brahms.
Je suis désolé, mais.
Allez, troisième question.
Vas-y.
Que s'est-il passé un beau matin de 1993 à la gare du Nord, à votre avis?
La gare du Nord de Paris.
Du Nord de Séville.
Xavier Feugré est né.
La gare du Nord.
Xavier Feugré est né. Est né dans la gare du Nord.
Quelle année tu dis? Quelle année?
93.
C'est le train des pièces jaunes.
Non.
Auschwitz, non?
Le premier Thalys.
Non. On n'est pas loin, on se rapproche.
Ah, la première ligne.
La première ligne pour rien en Angleterre.
Le Eurotunnel. Eurostar.
Non, c'est moi.
C'est ça, c'est
le bazar. Le TGV Paris-Lille.
C'est ça. Sarlette. Très exactement, c'est la mise en place de la ligne TGV Nord.
Voilà. Ah, en 93
et un beau matin de 93, le premier TGV est parti de la gare du Nord.
Je dis ça vaut un demi-point.
Point pour Starlet.
Bah, petite calme Magnum. Bon.
Ensuite.
Vas-y, fais péter.
Alors, c'est là que vous allez avoir la réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Quelle chanson était numéro 1 au du hit parade français le jour de la naissance de notre invité, soit le 19 juin 1981?
Partenaire particulier.
Alors, plutôt que des titres au hasard, essayez de.
Chanson française.
C'était français. 5h du matin, j'ai des frissons.
C'était français.
Chanson française.
Est-ce que c'est quelqu'un de très connu?
Gold.
Sous les soleils des tropiques, Hubert Montagnier.
C'était un groupe ou c'était un
artiste?
C'était un artiste.
Macumba, Jean-Pierre Madère.
Est-ce qu'il a fait
des questions intelligentes? Poser des questions.
Est-ce qu'il a fait une grande carrière ou c'est simplement un tube?
Alors, on le connaît surtout pour ce tube, mais il a fait une carrière.
Ah oui, il est libre
Fernandez.
Non.
Ah, tu veux dire Christiane?
Quelle année?
81.
Le 19 juin 1980, le jour de la date de naissance de Xavier.
Donc c'est un homme, un artiste français.
C'est un homme.
C'est un
homme.
Mardi, ça, c'est ça?
C'est un homme.
C'est un chanteur.
Artiste. Je suis né
en 74.
Français.
Renaud. Français. C'est Renaud qui chantait le béton.
Qui est connu principalement pour ce tube ou pour d'autres?
Alors, si on cite le nom de l'artiste, on connaît ce tube. On cite ce titre.
Ah oui, c'est évidemment, c'est Jean-Jacques Goldman.
Non, c'est les corons de
Pierre Bachelet.
Ça aurait été drôle parce qu'on en a.
Rico Macias?
Non.
Plastique Bertrand?
Non plus.
Barzotti.
Donc il, poser des questions.
Il est français. Que... Donc il est français.
Et il est mort.
Il est français ou il est.
Il est français.
Il est mort.
Il est mort.
Est-ce qu'il est mort? C'est moi qui ai posé la question.
Et c'était plutôt de la variété, de la pop, du rock.
C'est très chanson française.
C'est Cabrel. Chanson française. Évidemment, c'est
Benoît Girac.
C'est Alain Souchon ou Laurent Voulzy.
Pas du tout.
Jacques Chirac.
Non, ça a l'air de.
Johnny Hallyday. Daniel Guichard, mon vieux.
Non, mais on le gitan. Un peu est-ce dans les styles.
Est-ce qu'il est bras à Jarl Normand? C'est Jarl.
Daniel Guichard, on se rapproche.
Je ne me refais jamais ça.
Quelqu'un, cette... est-ce quelqu'un pouvait trouver le chanteur et on s'en gouffre pour trouver la chanson.
Est-ce qu'il est brun ou est-ce qu'il est blond? Il a été brun.
Patrick
et blond.
Juvet.
Non, pas blond en tout cas.
Frédéric non, François.
Il a des cheveux un peu longs.
Et
à l'époque.
Bah c'était un peu la mode.
Francis Lalanne. Gilbert Bécaud.
J'ai une question. Non, j'ai une question. En fait, c'est, en 80.
Je t'aime.
En 81, c'est quelqu'un qui était plutôt proche des 20 ans, des 30, des 40 ou des 50.
Je dirais qu'il avait la trentaine.
Il avait 80. La trentaine.
Est-ce qu'il était alors plutôt de droite ou de gauche?
C'était son premier tube ou
Émilie Jolie. C'est Émilie Jolie, Philippe Châtel.
Non.
C'est un homme ou une femme?
C'est difficile à répondre à ta question.
Est-ce
mais...
que, est-ce que il a alors par exemple dans sa
ça
chanson, est-ce qu'il
je me souviens plus.
Un hommage à c'était son premier tube.
Est-ce que c'était sa première chanson?
Bah c'est Johnny Hallyday.
Non.
Ça y est, 81.
Alors, et si je te dis, mais ce ne sera pas ça évidemment, si je te dis Cargo de nuit d'Axel Bauer, tu me diras oui.
Ok, donne pas son prénom. Comment il s'appelle du coup?
C'est compliqué.
Écrit par sa fiche Wikipédia comme un chanteur de variété française.
Ah, salaud.
Sans surprise.
Merci.
Mais oui,
beaucoup.
Rémi Bricca. Et c'est la vie en couleur.
Vas-y, bah, continue la fiche Wikipédia.
Yves Simon.
Vas-y, continue.
Mais non,
la
mais
fiche,
donne les initiales.
Qui trouve,
donne les initiales.
C'est très intéressant, je l'ignorais, mais. Ah. Il est l'auteur d'articles et de livres sur les avions soviétiques de la
c'est Seconde Herbert Guerre. Léonard, pour
oui
le plaisir.
Bravo. Oh
là, c'est enfoiré.
Je sais qu'Herbert Léonard est un passionné d'avions russes.
Tout ça, c'est ton pote, c'est Guillaume, mais ça me dégoûte.
Très improbable.
Mais c'est dégueulasse.
Comme culture.
Ça s'appelle la culture générale. Très générale, mais...
Tu m'aurais
général
dit,
de l'US Air Force.
T'aurais dû nous dire puissance et gloire, hein, je trouvais tout de suite.
Enfin, c'est oui pareil si tu donnes tous les renseignements pour qu'ils trouvent.
Enfin, bien joué en tout cas. Non, faut reconnaître.
C'est lui qui chantait Château Vallon.
Bon. Oui, bref, je vous rappelle la question initiale. Il était numéro 1 du hit parade le 19 juin 80.
Et Herbert Léonard, avec quel titre alors du coup avec
pour, le plaisir,
pour le plaisir.
C'est pour ce titre-là qu'on connaît. Question suivante.
Passons.
On a beaucoup parlé ce soir de Temps Mort, mais c'est aussi le nom du premier album de l'artiste que nous cherchons. Le disque est sorti le 22 janvier 2002.
Oh,
putain. Oh, c'est...
Ouais, non, j'ai eu quelque chose à la con comme ça. Temps Mort Malade.
C'est pas
Abdelmalik.
Artiste connu.
Non, mais c'est un nom qui me...
Qui a du succès.
Est-ce que c'est un artiste...
Oxmo Puccino.
Ah, qui a énormément de succès.
Alors, est-ce que c'est un artiste...
Aujourd'hui encore.
C'est un artiste anglais, australien ou français?
Calogero, Obispo...
Temps Mort, si c'était Michael Jackson.
Oui,
Daniel Dark.
Calogero, Obispo... David Hallyday.
Jean-Jacques Goldman.
Christophe.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un de. C'est un,
est-ce que c'est quelqu'un qui fait encore des tubes maintenant?
Ou plutôt si cela.
Oui, c'est quelqu'un qui fait des tubes maintenant.
Toujours.
Ouais. Et plutôt dans le rap.
C'est Pascal Obispo.
Plutôt rap ou chanson
plutôt
française?
Plutôt rap.
Plutôt rap.
Donc c'est Florent Pagny.
D'accord.
Donc,
Oxmo Puccino. MC Solar.
Non. J'ai dit Oxmo.
Non.
Doc Gineco.
Non.
Donc c'est Herbert Léonard.
La Fouine.
Non. Mais t'es pas loin.
Ayam. Colchain.
Booba.
Ayam.
Oui.
Booba.
Booba.
Oh, putain. Putain,
petit et... ourson.
Et à chaque bravo fois, c'est grâce à moi. Hein. Je te donne les indices et toi, tu réponds.
Je t'en verserai un pourcentage de mes points en fin de parcours si
merci
je finis en tête.
Dido, il crie pas trop fort, tu fais craquer le
ah
truc.
Ah, c'est pas moi, c'est lui quand il arrive.
Oui, c'est toi quand t'arrives.
Alors, ça va bien.
Quand t'arrives, tu fais craquer le truc.
Ça va bien.
Je fais craquer le...
Moi, je suis capable de pas marquer un point, là.
Ah bah moi aussi, hein, je te rassure.
Moi aussi. Hein.
Allez, je vois que vous avez pas mal galéré sur cette
allez,
thématique.
Arnaud, tu veux te taire?
Non,
là,
il joue, c'est bon.
Large,
t'as pas les groupes
alors là...
T'as vu, hein, le succès, la voix du succès, ça ouvre aux aigreurs. T'as vu les aigris autour, c'est ça, ça c'est le succès.
Ah, c'est ça.
Avec la suite... Avec
genre
la
tu
suite,
connais, toi.
Avec allez-y, la suite écoutez, du merde quiz, j'ai voulu mettre le nez dans la crotte de certaines autour de la
table. Pas de chevelèche.
Quoi?
C'est donc un quiz avec une thématique cuisine.
Oh ah.
En fait, je vous ai pas donné le cadeau à gagner.
Ah, il y a un cadeau à gagner.
Non. Oh, t'es trop mignon. T'es trop pas mignon.
Si, je vous le montre après.
Ah.
Ça va vous plaire. Non, ça c'est à moi, tu rigoles.
Tu déconnes, non.
C'est ma Rolex de la merde.
À partir de quel ingrédient sont réalisés les falafels libanais?
La
pois
farine.
Pois chiches.
L'amande.
Non.
L'amande.
Non.
Farine.
Non.
La feuille de brique.
Non.
Bah, c'est
je sais même
chiche
pas ce que c'est, en fait.
Tu moulis.
Non plus.
Pois chiches que tu moulis.
La feuille de vigne.
J'ai un trou dans mon pantalon.
La feuille de brie.
Les falafels libanais.
Oui.
Ah, ça fait moins les mailles.
Le blé, ouais. le blé.
Non.
Bah, le blé.
Non.
De l'orge.
Le pois chiche en
sarrasin. De l'orge, du bâche. Le seigle.
Non.
Le maïs.
C'est pas une céréale.
C'est un légume.
C'est une céréale ou c'est
le froment? Le froment.
Boulgour.
Le froment.
Boulgour.
Non.
Quinoa.
Semoule. Le flageolet, le, ouais. Le haricot.
Non.
Ah, l'olive.
Non.
Oh, sésame.
Comment ça, c'est pas l'olive?
Le pavot. Ouais.
Avocat.
C'est aussi un ingrédient de la galette des rois.
La franchise.
Mais non, l'amande.
Ouais, l'amande.
J'ai déjà dit l'amande.
Non.
La maïzena.
On avait craqué le bordel, là.
La farine.
Tout le monde s'est jeté sur la frangipane, mais comme des merdes.
La fève.
La noisette.
Oui, la fève.
Allons, farmuche.
Non,
c'est dégueulasse.
Arnaud passe en tête sur la fève.
Là, ça devient celui qui a le moins bu.
C'est le pois chiche.
C'est le pois chiche, je te jure.
La pois chiche, tu veux dire.
Attends, je l'ai dit un peu. Alors, les filles, et même là-dessus, vous vous assurez pas une quête.
Bande de merde.
C'est parce que tu t'es renseigné sur toi, sur Marmiton.
La fève, trop fort.
Et même quand on les contente, ça gueule encore. Ouais,
c'est... Ah, mais ça, moi, oui, quand je la contente, ça gueule.
Attention. Hein.
Ah, bah, ça, moi, oui.
Ah, bah, ça,
il est content de sa connerie.
Pardon.
Mais ouais, tu fais tout péter.
Il va rire dehors, enfin. Allez, question de rapidité.
Vas-y.
Qui est le premier pays producteur de vanille?
Madagascar.
Je l'accorde à Didouille parce qu'elle l'a commencé avant.
Comment vous le savez ça?
Comment vous le savez ça?
Non, c'est super fort. J'aurais jamais dit ça. C'est d'enfer. Vous êtes trop bon. Ouais, vous êtes trop fort.
Attention, c'est une question cuisine, mais
de rapidité aussi.
Non, c'est une question un peu logique.
Et pourquoi on passe sur la cuisine en fait?
De réflexion. Réflexion culinaire. Historiquement, à quoi servait le riz sur les sushis?
À faire tenir le truc.
Conserver le poisson.
À conserver le poisson.
Putain, j'y crois pas.
Bravo. Voilà. Bravo.
De Daphné, oh. Big up, big up.
Je kiffe trop quand il y a de la cuisine dans le cuisine.
Xavier Feugré a accepté mon invitation.
Déjà, c'est qu'il est bien rentré.
Alors, attention, là, c'est une question cuisine, mais c'est une question réflexion aussi, là. Qu'a inventé le cuisinier américain George Crumb en 1853.
Et le Crumb,
l'hamburger.
Non.
Le barbecue.
Les crumpets. Les ribs.
Les donuts. Comment il s'appelle
Aucun intérêt.
D'accord.
Enfin, si, il s'appelle George Crumb.
Les Loulou Crumb.
Crumble.
En 1853.
Le hot dog.
Non, mais pourquoi vous hurlez?
Les frites, c'est un ingrédient, la gelée. Non,
t'es très proche.
La purée.
De quoi t'as dit? T'as dit quoi?
Oui, qui a dit les chips?
Didouille.
Les chips, c'est moi.
J'y crois pas.
J'adore, c'est que les gens, quand on perd, on est super énervés en fait.
Ah non, mais
putain, ça te fait quoi d'être chez les losers, Ludo, cette fois-ci?
Attention, dernière question. Hey,
Christophe,
double.
Tu joues pas ou quoi?
Non, mais je joue.
On t'entend pas, il est plus là.
La cuisine, c'est pas mon truc.
T'as prévenu les auditeurs que Christophe nous avait quittés.
Dernière question, on met deux points en jeu sur la dernière.
Oh, l'enfoiré.
Oh putain.
Ouais, mais et tu peux mettre.
Vas-y, fais péter.
Si Didouille c'est remporte, c'est elle qui gagne le cadeau.
Attends.
Moi, croisement des deux, j'aurais dit Welsh ou pot de chevelèche.
Tata. C'est une question jaune ou rouge.
Cuisine ou pas, là.
T'as envie de le dire, pot de chevelèche.
C'est à nouveau une invention qu'a inventé Victor Pouzet à Thiers, en France, en 1929.
La balance.
Non.
C'est une recette,
couteau.
Une recette.
Ce n'est pas une recette.
C'est un outil de cuisine.
Qui a dit couteau?
Couteau, c'est moi.
C'est pas ça. Mais
la fourchette.
Il n'a pas inventé le couteau.
Le couteau, la fourchette, la
le
cuillère,
couteau,
le spoon, le
couteau
le forklift, le canif, le craft, le
table. La machine à découper les tranches de jambon.
Qui a demandé si c'était un outil?
C'est un outil.
C'est un outil.
La trancheuse à jambon.
Quel rapport avec
la trancheuse à jambon?
Non.
Dénoyauteur.
La râpe à fromage.
Non.
Le mixeur.
La râpe à...
Mais vous allez trouver. Vous êtes
la râpe à carottes.
Le robot multifonction. L'économe.
Le truc à purée.
L'économe.
L'économe.
J'ai même pas triché. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Putain, merde, l'économe. Comme ça m'est sorti comme si que... Je sais pas, j'ai vu un truc, quoi. Ah, c'est trop bon.
Qui a gagné ce soir?
Ce soir, c'est Arnaud qui a gagné.
Ah bon?
C'est Arnaud avec 4 points et Didouille juste alors, derrière avec 3 points.
Et moi, et je suis juste après, et juste après, et juste après.
2 points, et ensuite c'est Starlet et moi-même avec 1 point.
Et au classement général.
Et au général, c'est Arnaud qui passe devant moi avec 13 points devant 12.
Putain, je suis pas en queue de peloton, je suis même pas en queue du tout.
Ça nous regarde pas, ça.
Oh, trop fort. Mais moi, comme j'ai gagné 2 points d'un coup, j'en gagne jamais, j'ai rien gagné.
Le cadeau du soir tient dans la main.
T'es trop mignon avec tes cadeaux, t'es sympa.
Le cadeau du soir, donc.
Il tient dans la main.
Qu'est-ce qu'il tient dans la main?
Le cadeau du soir est offert par Monsieur Rêve.
Monsieur Rêve, mais.
C'est une petite boîte de cachou. Tu peux nous lire, Arnaud, ce qu'il y a écrit dessus?
Le rêve de l'escalier, les livres qui coûtent pas bonbons, on les cachou.
Waouh!
Librairie, Monsieur Rêve.
Tiens, Marius, il va te prendre en petite photo qu'on l'a.
Nul à chier, le truc.
Marius, je dirais à Monsieur Rêve que t'as pas aimé et que tu l'as pas voulu du tien.
Si! Non, attends! Non, je rigolais en fait! Non,
j'aurais dû les gagner tous!
Merci, Mickaël! Trop content d'en avoir une!
Moi aussi!
Merci, Mickaël!
Il y a toujours des très bonnes idées! Aujourd'hui, il y avait un iPad à gagner chez lui!
C'est vrai?
C'est vrai?
Ah, gueule, on est jamais au courant!
C'était le 1er avril!
C'était le 1er
avril! Les escaliers, on les cachou, librairie!
Il y avait une liseuse électronique!
Il y avait un iPad pour 1000 euros d'achat chez lui!
Franchement,
je vous invite à aller voir son statut de la journée.
Les livres qui coûtent pas bonbons, je trouve ça excellent.
Eh ben, écoute, encore merci Freddy.
Ne me remerciez pas, je l'ai fait pour le plaisir.
C'était... Oh, non, faut le faire en chanson là.
Franchement,
chante.
Pour le plaisir.
Oh,
c'est bon.
Avec qui allons-nous commencer pour le... Marius, t'as l'air prêt, toi?
Je suis pas prêt. Attendez. Alors, eh ben, on peut y aller, c'est parti.
Freddy.
Quand tu veux.
Ok, donc moi, alors, non, attends. C'est pas grave. Bah, écoute, je le ferai après.
Marius,
après,
mais Marius, il vient nous dire qu'il était pas prêt.
Mais c'est, il a dit oui après.
Non, mais c'est Freddy dans l'ordre du truc. Ça sera Marius juste après. Freddy, quand tu veux, c'est parti.
Alors, je vais vous parler d'un garçon que certains ont connu, ont peut-être découvert, ou vous connaissez déjà. Il s'appelle Joseph Van Wissem.
Ah oui.
On avait vu en deux parties, une fois trois pièces, et surtout une fois le Temple Saint-Éloi, pour un concert magnifique. Juste pour situer, Palme d'Or à Cannes, enfin pas la Palme d'Or, le prix de la meilleure musique de film pour Only Lovers Left Alive en 2013, le film de Jim Jarmusch. Le garçon était venu à Rouen, une superbe rencontre, il avait demandé à revenir, vraiment c'était super. Et figurez-vous qu'il sort un nouvel album, dont on entend un titre en ce moment. Et je vous conseille, parce que c'est à nouveau du luth, c'est à nouveau son instrument de prédilection.
C'est particulier, c'est, hein, c'est vrai.
C'est très particulier, il faut se mettre dedans, il faut fermer les yeux.
C'est du luth gréco-romain.
Il en a fait du luth.
Et juste pour finir, il y a un titre avec Zola Jesus, c'est celui qu'on écoute et je vous conseille pour entrer en matière.
Merci. C'est génial. T'es prêt?
C'est parti. Donc, j'ai été voir The Revenant et franchement, j'ai pris une grosse claque. Le film dure pas loin de 3h, 2h30. Et pas une fois, je me suis embêté.
1h20.
Je me suis dit, bordel à la con, c'est pas long, c'est vachement bien. Le décor, les cadrages, les jeux, Leonardo DiCaprio. Et je reviens sur les cadrages parce que les cadrages ont été simplement. Enfin, moi, c'est les cadrages qui m'ont vraiment. Les cadrages du film, voilà. Et quand on dit qu'on a... Oh, je sais même pas si je peux le faire. Hein. Mon timing, il est pourri, en fait. Ça y est. Et en fait, voilà, quoi. Non, mais c'est un beau film. C'est vachement bien. Je voulais parler de sa journée de merde où il se fait à moitié tué par des Indiens.
Raconte pas tout quand même, on n'a pas vu le film, hein, donc il va
s'arrêter par
là.
Un ours.
Et raconte pas le film.
Tout, c'est... Non, mais c'est... Attends, il y en a eu, hein, je veux te dire.
Oui, mais on veut le voir.
En 2h30, c'est pas résumé.
Non,
en 20 secondes, c'est...
Pouf, fini.
Voilà, c'était super.
Leonardo DiCaprio pour Titanic.
Carpaccio.
Eh ben écoute... Merci Marius.
Ah ouais, c'était super. J'avais fait
vraiment
une tartine.
Très intéressant.
En fait, pour le coup, j'avais fait une tartine qui faisait une minute et j'en ai fait 3 secondes.
Ludo,
oui.
Es-tu prêt?
Ah, c'est parti.
Oui, donc moi je vais vous parler d'une bande dessinée que je dois ça à Arnaud. Merci pour la découverte. Oh, la
c'est pas français, tu parles comme Christophe ou quoi?
Jupiter's Legacy, un BD de Marc Millar et de, au dessin Frank Quitely ou Quitely, je sais pas exactement. Donc c'est en gros sur les super-héros. Alors super-héros, on en a bouffé et rebouffé. Ça va un peu bien, ça commence à être un peu lourd. Sauf que Arnaud m'a dit, vas-y, va jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et bah voilà, j'ai été vachement branché par le truc. Alors ça va être dur de faire ça très très court, mais en gros, c'est si les super-héros avaient une descendance et comment est-ce que les gars vivraient leur statut, je dirais un peu comme des enfants de rockstar. Et on suit un peu ce pareil. C'est le télétravail mort de rire. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça vaut vraiment le coup de voir comment les personnages vivent leur destin. Et puis également toute la tentation totalitaire, fasciste du super-héros. C'est très très bien exploité dans cette BD qui est à découvrir. Voilà, c'est trop court, c'est trop tôt. Au revoir.
C'est parfait, Ludo. Merci beaucoup.
Je me permets et rendons à Pierre-Julien Clédaz qui appartient à Funambule. C'est sur ses conseils que j'ai lu Jupiter's Legacy.
Et moi, c'était dans un podcast qui s'appelle Too Many Books, et on s'est en même temps. Donc, ça,
excellente
voilà.
Surprise.
En ce moment, c'est vraiment le truc qui a l'air d'être.
À voir sur le tome 2 si ça maintient le cap du tome.
Très bien. N'épilonguons pas plus longtemps que ça. Bidouille, je ne sais pas ce que tu présentes, donc je te laisse.
Moi, je vais faire un coup de pub.
Attention, c'est parti.
Oui, un petit coup de pub. Si vous ne savez pas quoi faire le dimanche 17 avril, venez à Rezé-sur-Lire, petite bourgade en campagne, qui va fêter pour sa première édition une journée de printemps. Donc, pour cette occasion, il y aura un marché fermier avec des petits producteurs locaux qui vendront du miel, du chèvre, plein de petites choses. Il y aura des ateliers de 10h à 17h, des ateliers créatifs pour les juniors autour de la nature, où on va fabriquer des hôtels à insectes et leur expliquer pourquoi c'est utile pour la nature. On va faire plein de petites choses et il y a une randonnée pour aller en forêt et baptiser des arbres la vallée, et autour de ça il y aura un petit pot, il y aura des démonstrations de dressage de chiens de cinéma, donc monsieur Pitavino, oui, que vous connaissez pour Astérix, Didier avec voilà, donc c'est une journée qui sera placée sous le signe du partage.
Quelle date?
17 avril.
Merci.
À Rezé-sur-Lieu.
C'est bien qu'il y ait un coup de gueule de temps en temps.
Enfoiré.
Tiens, Christophe, sans transition aucune, à toi.
Eh bien, moi, je voulais vous parler d'une grande dame de la chanson française, qui s'appelle Françoise Brott, qui sort son dernier album, Zoho, qui est sorti donc le 18 mars dernier. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait rien produit et donc elle nous revient avec une poignée de ballades, de pop et autres chansons aux nuances discrètes et délicates. Avec sa voix de conteuse, elle explore de nouvelles ambiances et fait sortir la chanson française de ses sillons ordinaires. Et toujours de très jolis textes à découvrir. Et la suite, c'est pour écouter.
Joli clin d'œil parce que Xavier Nord avait joué, il avait ouvert le concert de Françoise Brott à Rouen le 2 juin l'an passé.
Ah ouais,
joli.
J'aime bien la musique.
Oui, c'est un côté très années 50, hein, ça m'étonne
Françoise
pas.
Françoise avec un Z.
J'aime beaucoup moi.
À mon tour, on va continuer le tour de table. Donc, mon coup de cœur du mois, c'est la BD Velvet à l'occasion de la sortie du deuxième tome. Donc, c'est l'histoire de Velvet Templeton, une assistante de direction des services secrets américains, qui se retrouve mise en accusation lorsque un des agents secrets se fait tuer dans des circonstances troubles, voire carrément symptomatiques d'un complot. La vraie nature de Velvet est ainsi mise en lumière et la voilà bien décidée à dénoncer la conspiration et à défendre son innocence. S'ensuit une course-poursuite qui l'amènera à interpréter différemment les certitudes sur son passé. Le premier tome nous présentait donc Velvet comme une femme qui prenait à bras-le-corps les situations. Le second tome creuse le personnage et on découvre les failles qui font ce qu'elle est désormais.
Les réponses qu'elle amène apportent d'autres questions et elle semble parfois se demander si la vérité vaut mieux que les mensonges dans lesquels elle s'était enfermée. On a donc une histoire d'espionnage de vengeance très prenante, immersive, avec un univers rétro qui nous transporte des années 50 aux années 80. C'est écrit par Ed Brubaker et superbement dessiné par Steve Epting, du même auteur. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux 6 tomes de Criminal qui sont également une tuerie.
Enfin,
Starlet, c'est à toi.
Starlet, elle est bien emmerdée parce qu'elle a oublié sa petite feuille, mais c'est pas grave.
Improvise.
Oh, bah voilà, donc je voulais juste parler du groupe, enfin du Rover, fait, qui est un artiste français qui chante en anglais, qui a sorti son deuxième album récemment et dont j'ai loupé le concert récemment également. J'ai découvert cet artiste il y a un mois et je vais le voir dès qu'il passe dans le coin parce que j'ai vraiment adhéré à l'univers. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup inspiré de David Bowie. Et c'est vraiment, il y a des sonorités et j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse découvrir Rover.
Avec le titre Call My Name.
J'ai une anecdote.
Ah, oui. Oh, raconte-nous, tonton. Vas-y. Et tout, tonton Freddy.
Non, juste pour dire que je l'ai vu à l'occasion de sa première tournée au Trianon avec notre ami.
Il est repassé il n'y a pas longtemps. Là.
Et Anthony est allé le voir à nouveau au Trianon.
Il y a trois semaines.
Et c'était une vraie bête de scène.
Oui,
dans tout le sens du terme.
Ah, il est impressionnant parce
qu'il en impose.
Il nous a dit, ouais.
Il est délicat et ça contraste avec son physique d'homme massif.
Et sa coupe, elle est
bizarre.
Il passe le 27 mai dans le cadre des concerts gratuits.
Arnaud.
Allez Arnaud, oui, à toi. Arnaud, es-tu prêt?
Non, mais vas-y.
Oh l'autre. Est...
Oh l'autre, ça fait un tour de table qu'il est prêt.
Arnaud, c'est à ton tour.
Donc je voulais parler d'une BD autobiographique dont le deuxième tome est au niveau du premier puisque j'ai eu les deux. C'est l'Arabe du futur, qui est donc l'autobiographie de Riyad Satouf, le parcours peu ordinaire d'un enfant, donc fils d'une mère française et d'un père syrien qu'elle a rencontré alors qu'il faisait ses études à la Sorbonne. Et la famille suit le père, docteur en histoire, qui exerce dans la Libye de Kadhafi et puis dans la Syrie d'Hafez el-Assad au début des années 80. C'est à la fois instructif sur la vie dans ces dictatures socialistes arabes de l'époque, avec le fossé entre les capitales et les campagnes dans ces pays. Et puis c'est un portrait sans concession d'un père, Abdelrazak, qui est pas épargné par l'auteur, qui est un peu lâche, avec un décalage entre ses rêves de grandeur, à la fois personnel et pour son pays, et puis la médiocre réalité. C'est aussi le renoncement d'une mère qui s'ennuie à mourir, et surtout les descriptions des petites peurs quotidiennes d'un enfant qui sont amplifiées par vraiment une situation peu ordinaire. Notamment l'idée d'intégrer une école syrienne avec un portrait d'une institutrice qui m'a rappelé Didouille. Et c'est une chronique familiale drôle, touchante et cruelle à la fois dans un contexte historique qui est vraiment, vraiment intéressant.
Parfait. Joli. Très bien. Et bah écoutez, mes amis, on arrive à la fin de notre épisode.
Un peu plus là.
Ah ouais.
On va ouvrir du pinard.
Vous avez faim ou pas là?
Ah ouais, j'ai surtout envie d'entrer chez moi là.
Donc si vous voulez laisser des commentaires sur cette œuvre ou sur autre chose, n'hésitez pas à nous en faire part sur l'entrepode.fr ou sur plein d'autres choses. D'ailleurs, pour rien manquer, on a lancé une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner depuis notre site. Donc la prochaine va bientôt sortir. Toi, tu fais partie du groupe, donc t'as pas besoin de t'abonner. Tu sais ce qui s'y passe. Je suis pas sûr en même temps. Abonne-toi. Tiens-toi au courant de ce qu'on fait. Sinon, on est toujours disponible sur SoundCloud, iTunes, etc., Pod Radio. On est bien entendu sur les réseaux sociaux. Vous tapez l'Entrepode, vous nous trouverez. N'hésitez pas à parler de l'Entrepode comme d'habitude. On ne va pas continuer à rappeler ces choses-là. Cela étant...
Mais on même
non, pas plus que ça. Moi, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'être invité dans le podcast Lifetile sur les produits Microsoft qui m'ont gentiment laissé présenter ce qu'on faisait à l'Entrepode. Donc, je les en remercie.
Bah oui,
ça a sympa. Peut-être contribué à nous faire connaître auprès d'un nouveau public. Donc, tout ça est bon à prendre. Donc, je les remercie beaucoup.
C'est pas fait quand
c'est un podcast, c'est passe quand tu veux.
C'est passé sur quelle radio?
Et puis bon, on va remercier aussi nos auditeurs qui nous laissent des messages, donc les fidèles Bouli, Cousbou ou Mathieu, qui nous font un retour quasiment systématique sur c'est tout cool. Ce qu'on fait. Merci aussi aux deux Sébastien avec qui on a interagi dernièrement et à Nico, un des derniers avec lesquels on a pu échanger. J'en
T'aurais
oublie
pu
peut-être.
Au moins faire l'effort de changer de pseudo. Quoi.
Donc j'en oublie peut-être. N'hésitez pas à me le faire savoir et interagir avec nous parce qu'on aime vraiment ça. Si vous voulez nous soutenir
financièrement, vous savez qu'il y a Tipeee. On va dire que nos copains de Hoopstock, eux, ont dépassé largement leur objectif Ulule. Donc, on les félicite, puis on est content pour eux parce qu'ils ont largement explosé le truc. Nous, on doit se démerder parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Non, non, sans déconner.
Il y avait un vrai, objectif,
Nous sommes un objectif.
Nous, il n'y a pas d'objectif.
L'objectif, c'est que la cave à vin, elle est en train de baisser.
C'est bon ça.
Ulule,
et moi je
veux
des secs.
Bien sûr, non, mais c'est
qu'est-ce qu'il a dit
à une date fixée.
Non, mais bien sûr, voilà. Donc voilà, si vous avez donné
un stock et que vous voulez, fixée.
Voilà, voilà, on fixe une date. Vous avez jusqu'à demain. Voilà.
Bon, voilà.
En tout cas,
la cave.
On espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous on a passé encore un très bon moment.
Ouais, super. Mais moi, je voulais quand même dire vite fait que je mime.
Moi, tu me fais rêver quand tu parles comme ça.
Oui, je...
Vas-y.
Non, je voulais dire que je faisais de partie de l'équitation.
Je fais de l'équitation,
l'équilibre, mais... Vas-y, t'arrêtes.
Je faisais partie de l'équipe qui n'avait pas trop accroché avec l'ambiance musicale de Nord. Mais je fais partie de l'équipe qui accroche à mort avec le personnage qu'il est. Ouais, c'est vraiment une belle personne et je suis très contente d'avoir fait sa connaissance.
Ah oui,
et
tout
vraiment, à fait d'accord. Absolument.
Alors moi, j'avais pas écouté, je connaissais pas la personne et il est vachement sympa.
Mais non, mais il est adorable, il est vraiment adorable.
Non, vraiment.
Et moi, je voudrais me remercier moi-même pour tout ce que je suis. En
fait. Et on te remercie pour ce que tu pues.
Et je suis sur Facebook.
Oui, c'est quand même une nouvelle, mine de rien.
Marius shooting.
Shooting comme shooting.
Et on remercie Marius pour tout ce qu'il n'est pas.
Et on se retrouve à peu près dans un mois. Peu de choses près, on n'a pas encore défini le thème. On verra bien. Et puis on vous dit donc à bientôt. Bonne écoute. À plus. Allez,
bisous.
Allez, bonne année.
Quesadilla.